On accorde nos violons, excusez-nous, voilà, là, on est en train de se placer. Ah, ah voilà, zou.
Tada. C'est bon, vous êtes prêts, les gars.
Ça, c'est quand tu veux.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 7 mars 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz.
Attention, tout à l'heure du sport fera gagner des places de Joseph Arthur. Samedi prochain.
Mais dans l'immédiat, voici Bas les masques que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Bah tu t'es planté de jingle, on parle d'un film avant l'autre film asiatique.
Ouais ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Bon pardon, d'accord, désolé.
Non mais c'est bien,
j'ai cherché le fond.
C'est pas comme si c'est toi qui faisais le conducteur, mais bon c'est pas grave.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek avec du sport, Ultimatum, Das Creech et la participation exceptionnelle de JB.
On règle nos comptes avec l'émission d'avant, voilà, t'inquiète, puisqu'à ce qui paraît, ils ne seront pas là samedi prochain, quel dommage, on
oui,
pourra
de toute façon,
chambrer.
Ça va pas vraiment durer, en fait.
Oui, non, j'aurais peur. Mais heureusement, il y a les nouveaux, là, qu'on va bientôt bizuter. Alors, vous inquiétez pas, parmi les bus d'étage standard, il y a l'inversion des câblages, les larcènes non volontaires, et tout le reste, et il n'y a pas que ça, il y a aussi les erreurs de placement, le mec d'après qui ne suit pas, d'où le grand blanc juste avant, et tout le reste. Et oui, vous êtes sur Radio FMR, si on pouvait faire une émission de radio bien, on ne la ferait pas chez nous, c'est clair. En tout cas, bonjour et bienvenue, bonjour Thomas.
Salut Xavier.
On en est à la 189e, il me semble, et 190, pardon. Et aujourd'hui, eh ben, on va parler surtout de super-héros masqués, de tout le reste.
En jaune et noir.
En jaune et noir, pardon. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les séances dédicaces. Et avec aujourd'hui donc un festival BD qui a lieu à l'ENSET, l'école d'ingénieurs. Comme d'habitude, début mars, eh ben, ils n'hésitent pas, ils le font dans le foyer. Alors c'est dans le foyer, c'est très simple, la bière est pas chère, donc c'est pratique. Je vais dire, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont là. Becca, le couple de scénaristes des rugbymen qu'on a reçus la semaine dernière. Il y a Valente, Gotal, Spomes, Morgan, Lupiano, Mafrin, Wessengel, Giblin et Verpotam qui sont en dédicace. Il y aura des expositions, des animations, c'est plutôt une ambiance bon enfant. Assez sympa, les auteurs du coup sont beaucoup plus faciles à aborder justement par ce côté, beaucoup moins formel que d'habitude sur les dédicaces quoi.
Et puis il n'y a pas n'importe qui effectivement là-bas, il y a 2 ans on se souvient de l'avenue de Benjamin qui avait totalement éclipsé son voisin de table Renault de Womox quand même.
qui fait pas que Womox, mais on se souvient qu'il était là, il disait ouais sympa mais bon. Et il était allé d'ailleurs juste après être passé sur notre antenne en direct, c'était là aussi un grand moment. Donc voilà, donc pour ceux qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à y aller, donc c'est samedi aujourd'hui. Jusqu'à 6h théoriquement au foyer de l'ENSET. Alors c'est l'accès rue d'Aurillac, pour ceux qui sont à Toulouse ils savent à peu près, c'est juste derrière l'ancienne sécu, quoique si je crois qu'ils y sont toujours. Voilà. Parmi les personnes au générique qui ne sont pas présentes, JB est excusé. Et du sport ne va pas tarder à arriver.
Il nous fait son instant norvégien ce côté.
Voilà, chacun le sien, hein, c'est ça, glut. C'est ça, le demi-heure toulousain. Parmi les dédicaces aussi, dont on peut annoncer qui auront lieu samedi prochain à Terre de Légende, Mayonara pour sa série D chez
Non,
Delco.
C'est Manara qu'on dit.
Non, c'est. Non, celle-là, tu me la feras pas. C'est si, Mayonara, si. Voilà. Pour sa série D sur les vampires, sur un ton fantasy et assez allumé. Donc, c'est samedi prochain à partir de 15h à la librairie Terre de Légende. Dimanche 15 à Ramonville, Saint-Agne, c'est la bourse de la bande dessinée, la salle des fêtes parc technologique du canal. C'est 10h à 18h. N'oubliez pas d'y aller avec votre BDM, parce que il est très probable que les prix soient légèrement surévalués par rapport aux cotes officielles. Néanmoins, on tombe des fois sur de très 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 bonnes affaires, attention. Et samedi 21, la librairie Album, Stéphanie Mercier, Tous les jours, la grande chose, c'est une adaptation du blog qui porte le même nom, Tous les jours, la grande chose.
Et encore un blog.
En bande dessinée, voilà. Donc, ce sera la librairie Album à partir de 15h. Mais de quoi va-t-on surtout parler aujourd'hui? Ben, comme annoncé dans l'émission d'avant, il s'agit de Watchmen, l'adaptation en bande dessinée de la bande dessinée au cinéma qu'on est allé voir hier. J'y suis allé avec un a priori et Thomas y est allé en se disant « Bon, on sait jamais ». Vous verrez ça tout à l'heure dans à peu près une demi-heure. En attendant, c'est sorti comics, là aussi très orienté, super-héros, quoique pas que des super-héros. Quand même, puisque ben Mark Millar et J.J. Jones proposent ben Wanted chez Delcourt. En fait, c'est un comics qui avait été adapté au cinéma et que l'on n'avait pas sorti au moment de sa chronique. Qu'on n'avait pas chroniqué au moment de sa sortie, excusez-moi, voilà. C'est un lapsus.
C'est le film avec Angelina Jolie.
Oui.
Ah bon?
Oui.
Ah bon?
Ah bon.
Je savais pas du tout.
Voilà, bah, mais moi non plus je l'ai pas vu. Donc,
est-ce que tu es bien sûr de ça? Il s'agit d'une attention.
Écoute, je suis pas sur le net là.
Et,
alors,
que ce n'est pas juste un truc homonyme.
Non, non. Bon, il est chroniqué comme. Ben, d'ailleurs, je crois même que dans le dos, ils disent adapté au cinéma et tout le reste. En attendant, c'est chez Delcourt avec la jolie étiquette pour personne s'avertit.
Tout à fait.
Et c'est. C'est l'histoire. Non, c'est pas une histoire, ça pourrait être votre histoire. Celle de votre vie qui est une sombre merde. Employé de bureau écrasé par votre chef, votre petite amie qui est goth vous trompe avec votre meilleur pote. Et bref, votre vie a un sombre arrière-goût de déjà-vu sordide. Vous allez en chier jusqu'à la fin, mais voilà, un jour, on vient vous extirper de là. Une charmante femme, mignonne et canardeuse. Elle n'hésite pas à tuer, vous explique que vous êtes l'héritier du meilleur tueur à gages du monde. The Killer. Et que vous allez hériter de sa charge de super-vilain. Car oui, les super-vilains existent. Oui, dans la vraie vie. Mais pas les super-héros. Ou plus exactement, ils n'existent plus. Ils ont tous été annihilés, et les vrais maîtres du monde sont des hyper-criminels. Ils se sont partagés la planète et les bénéfices, ils ont mis tous les droits. Tuer, violer, piller, mutiler, jouir de tous leurs fantasmes. Ils ont réécrit l'histoire à leur sauce, dont les super-héros n'ont jamais existé. Voilà, c'est pour ça. Alors que vous avez des souvenirs vaguement d'enfance, de cette époque bénie et fabuleuse. Eh ben non. Ils en ont fait un monde sordide, plus réaliste, comme ils disent. Et finalement, c'est eux les boss de l'ombre. Ça a été leur coup de génie. Personne ne se doute que réellement détire les ficelles de l'humanité. Et coup de bol incroyable, le père que vous n'avez jamais connu est The Killer. Le tueur le plus redouté de tous les super-vilains.
C'est une fat.
En fait, comme vous êtes son héritier, c'est fini la vie mortelle. À vous le plaisir de buter tous ces gens qui vous ont fait chier chez vous, au bureau, au hasard dans la rue. Tiens, tu es passé devant moi, ben je te balance 3 bastos dans la tête. Le destin de Wesley bascule donc brutalement quand il apprend qu'il doit reprendre la charge de son père. Mais il reste une question, qui a pu réussir à assassiner le meilleur tueur à gages? Wesley aura-t-il le temps de maîtriser l'art de son père avant de se faire refroidir à son tour? C'est jouissif à mort, irrévérencieux, mais surtout génial. Et là où c'est encore plus génial dans la BD, c'est qu'il y a plein d'allusions à Bah, on voit deux acteurs ventripotents qui disent « Non, non, mais nous n'avons jamais été les super-héros, c'était qu'une série des années 60 et tout. » Alors que c'était vraiment les super-héros, c'est vraiment Bruce Wayne qui va se faire décapiter, tout le reste. C'est assez violent. On ne cite pas, justement, tous les super-héros qui vont mourir brutalement, que l'on a extirpés de leur maison de vieux et qui se souviennent vaguement qu'ils ont peut-être fait des galipettes, mais c'était devant la caméra. Et c'est ça qui est génial. Wanted a été adapté au cinéma. J'ose pas imaginer comment, justement parce que j'ai adoré le comics. Marc Villar, G.J. Jones, Wanted, c'est chez Delcourt pour la traduction française.
Est-ce que... moi j'ai pas vu le film, mais j'ai...
Ah. J.J., pardon.
Dans la bande-annonce du
sport, du sport est dans la place, il va nous fesser.
Dans la bande-annonce du film Wanted, il y a Angelina Jolie qui se met devant une cible et qui dit aux jeunes il faut que tu apprennes à mettre de l'effet dans ta balle. Est-ce que c'est dans la BD ça?
Je crois, ouais. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'effectivement il y a.
Ah, il tire avec des effets.
Ouais, il y a des trucs de ce genre.
Comme au tennis.
Bah oui, parce que l'idée c'est qu'avec une seule balle tu puisses en buter trois.
D'accord.
Ça fait des économies et c'est plus style. Et puis comme toi tu fais mouche à tous les coups, autant que justement tu corses un peu la difficulté, c'est beaucoup plus drôle. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. De ce côté là c'est vraiment jouissif, c'est assez explosif, c'est très punk, c'est très adulte. Et gore, c'est pas du gartenisme, ça on n'est pas loin. Voilà. Batman, l'île de Monsieur Mayhem, Grant Morrison au scénario, G.H. Williams III au dessin. C'est là, cette fois-ci, chez DC.
G.H. Dans... et c'est pas Mayhem, c'est Mayu.
C'est Mayu.
Avec un W à la fin.
excuse-moi, là, je suis un petit peu endormi. Voilà, c'est chez Panini Comics pour la sortie française et c'est sorti aux États-Unis chez DC. Sauf erreur, c'était sorti chez Vertigo, mais à mon avis, je me trompe. Et non, Vertigo, c'est chez Marvel. Grosse erreur.
Non,
c'est chez DC, pardon. Oui. Ok. Alfred fait quelques travaux de rafalement du manoir Wayne suite à sa destruction. Et le DCPD peut se débrouiller finalement seul puisqu'ils veulent pas de Batman. Alors Batman, il a décidé de répondre à une invitation au soleil pour se détendre un week-end. Il embarque le jeune Robin pour aller sur une île privée qui appartient au milliardaire philanthrope John Mayhew, une sorte de Howard Hughes qui aurait pu se payer sa propre équipe de justiciers masqués. Dans les années 1960, il avait ainsi réuni... il y avait Batman, il y avait le Robin de l'époque, il y avait l'écuyer, Dark Ranger, Corbeau Rouge, Fer, Chiroptère et d'autres. Il leur a payé un super QG, donné un nom à ce groupe, le Club International des Héros. Et le groupe s'est dissous moins de 5 minutes après. Merde, les boules. Bref, Batman et Robin sont complètement à part de ce groupe, le seul rattache de ce milliardaire, mais ce dernier n'est pas rancunier. Il invite tous les ans ses anciens amis dans son manoir pour une petite bouffe en toute intimité et derrière le masque. Et pour une fois, depuis des décennies, Batman veut bien accepter l'invitation. Alors oui, il y va. Bref, Batman et Robin sont partis pour une sorte de convention de justiciers, de wannabe Batman de seconde zone, une réunion dans une île des Caraïbes dans le domaine privé d'un milliardaire. Sauf que ce John Mayhew va apparaître mort, découpé par un maniaque qui promet qu'il tuera tous les justiciers présents sur l'île dans les 24 heures. Déjà que la réunion entre les différents gentils, tournée légèrement au vinaigre par des rivalités mal étouffées, se sera divisée pour tuer. En général, quand apparaît le sidekick de Batman, à l'exception des très rares cas où il a été utilisé à bon escient, notamment la bande dessinée Dark Knight, je parle pas du film, je parle de la BD, je me dis que l'histoire va être moyenne. Sauf que dans cette mini-série, l'idée est excellente. Robin est vraiment l'apprenti de Batman, et il est indirectement jalousé ou ignoré par tous ces justiciers de seconde zone, qui ont tous admiré le chevalier de Gotham City, mais qui maintenant lui en veulent de les avoir snobés et d'être toujours restés dans l'ombre. Tous ces non-dits, dans ce huis clos mortel, démontrent toute la subtilité de ce piège. Aucune cohésion de groupe n'est possible. Et finalement, n'importe lequel de ces justiciers capés peut très bien être celui dont le bêtage de plomb a fini par le faire basculer du côté obscur. Batman, l'hymne du Docteur Mayhew. Grant Morrison, G.H. Williams III. C'est chez Panini Comics dans la collection DC.
C'est super étrange parce que à travers, dans une seule planche, à travers les cases, tu vois des rendus super différents avec le même personnage, avec des fois il y a des nuances dans le même ton, alors que la case juste après c'est des aplats Alors je sais pas si c'est voulu dans l'histoire.
Je crois que peut-être ils ont changé de coloriste en plein milieu, c'est pas impossible. Après, ce qui est, il y a une petite idée qui est assez sympa, c'est que on voit les photos de l'équipe qui a tenu 5 minutes hein, dans les années 60, dessinées manière années 60.
Avec les trams,
voilà, donc c'est vraiment, vous savez, c'est ils avaient fait la Justice League of America et puis plein de trucs internationaux parce que c'était trop américain. Donc ils ont essayé de recultiver ça, ça marche plutôt bien. Mais surtout ils ont tous un grain. Ils ont tous leur pétage de plomb. C'est pas mal pour l'histoire. Après, c'est vrai que sur le dessin, il y a un petit problème de cohérence. Personnellement, ça m'a pas plus choqué que ça. Voilà. Du sport, lui, il avait des BD.
Du sport, il y avait des BD.
Bah alors, le temps que Thomas se mette en place, on peut faire une coupure hein, dans les comics.
Ah
sinon.
Mais moi je suis prêt si vous voulez. Oui, allez, ok.
Bah oui.
Bon, alors on va parler maintenant de super-héros, mais dans un autre genre, qui sont en armure cette fois. Avec...
Attends, oh non, tu vas pas me refaire le coup.
Bah si. Il y a beaucoup de séries qui sont autour de cette franchise, figure-toi. Même si aujourd'hui il s'agit d'une parodie, ça s'appelle Les Chevaliers de l'Horoscope.
Je m'en doutais, putain, tu fais chier avec ton Saint Seiya là, mes trucs.
Mais oui, merde. Oui, mais tu vas en bouffer du Saint Seiya. Il s'agit du tome 1 par Nacho Fernandez chez Aquileos. Alors Nacho Fernandez, c'est l'auteur de BD espagnol qui avait déjà fait Dragonfall, la parodie de Dragon Ball. Alors, de jeunes orphelins sont envoyés par la Fondation aux quatre coins du globe pour conquérir des armures protectrices et veiller sur l'humanité. Bon, vous allez voir, vous pouvez le constater, la trame est absolument la même. Il s'agit d'une parodie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Saint Seiya, c'est évidemment Les Chevaliers du Zodiac, la série animée qui était diffusée dans le Club Dorothée et qui a été, on va dire, une série animée qui a un peu vieilli, déjà à l'époque.
Grosse merde, oui.
Le truc, c'est que selon que vous l'ayez découverte à l'époque de sa diffusion ou que vous l'ayez découverte après, la série est regardable ou pas du tout regardable. Donc
non,
voilà.
Non.
Alors, dans cette nouvelle mouture revue et corrigée sous le signe de la rigolade, le chevalier Pégase est cette fois-ci un jeune obsédé par les seins de son mentor et n'a qu'une chose en tête: revendre son armure et ainsi mener une vie de gros porc capitaliste.
Sur eBay.
Voilà. Le chevalier du dragon s'est entraîné à renverser le cours de la cascade. Bon, ça, c'est le
gimmick de la série.
Le gimmick, ça, c'est le truc classique au départ. Sauf que là, il devait en même temps manger un bol de riz et prononcer le mot Constantinople en même temps. Oui, parce qu'il y a le vieux maître qui suscifie, dit « Oh, vous savez, ça fait 200 ans que je suis là, je m'emmerde un peu. » Il a même appris à des pandas à faire du kung-fu sur des pitons rocheux. Là, donc il y a 3 gags par planche, c'est assez rigolo. Et on retrouve même le commentateur du tournoi des arts martiaux Dragon Ball qui vient faire une apparition pour commenter le tournoi intergalactique des chevaliers en vantant les mérites des vous savez, les jouets en armure Bandai. Bon, là, ils sont pas marqués Bandai, mais c'est moi qui le dis. À travers le tournoi. Donc, si vous voulez feuilleter la BD, vous constaterez que le trait du dessinateur espagnol, il est super efficace. C'est à mi-chemin entre le kawaii et le SD. Le super déformé, c'est vachement efficace parce que tu reconnais de suite au premier coup d'œil donc les personnages d'origine, donc ça c'est le propre des bonnes parodies. Et puis franchement les gags sont pas lourds, bon ça vole peut-être pas très haut, mais en tout cas ça t'arrache la banane à chaque fois. Il y a pas de gag qui fasse un flop ou alors c'est en noir et blanc. Moi ça m'a vachement plu, j'ai pas été trop déçu, alors que bizarrement Dragonfall ça m'avait un peu rebuté. Et c'est une BD qui est vraiment à conseiller aux fans, vous allez vous pisser dessus de rire. Il y a même, enfin il y a des gros
aux fans quoi.
Oui voilà, bon après si t'es pas fan forcément faut pas regarder ça, parce que déjà la série en elle-même est justement une sorte de caricature aussi hein, faut pas se leurrer, même si elle a des bons côtés. Là je me suis fait l'intégrale il y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tares quand même, hein. C'est une série qui n'est pas très regardable pour tout le monde, voilà. Donc, il s'agit des Chevaliers de l'Horoscope, tome 1, chez Aquileos, par Nacho Fernandez. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça suit la trame de la série, mais qui sait faire des raccourcis aussi quand ça le justifie. Donc c'est pas mal, vous serez quand même surpris, ça suit pas la série de A à Z non plus au niveau de la trame.
C'est un format comics, hein, attention, ça se range mieux justement.
Un format manga.
Oui, manga, pardon.
En format manga, et ça, le tome est assez... c'est pas très épais, et malgré tout, il y a une bonne progression par rapport à la série, donc ça, c'est pas quand même une série à rallonge, où il y a beaucoup de trucs qui se passent dans un tome, donc ça c'est pas mal. Les Chevaliers de l'Horoscope, tome 1.
Merci, maintenant je fais appel au chef des chevaliers, des vrais, pour le dire...
Bon bah je suis désolé, mais on me le demande, mais maintenant, barrez-vous.
Voilà, ça va un peu mieux. Dus. Ma foi, qu'est-ce que tu as ramené ?
Ah bah la livraison mensuelle de
comics.
Panini Comics avec le Spider-Man 110. Alors toujours avec Bob Gale scénario. Bon, enfin toujours non, ça change beaucoup hein, en ce moment, faut dire d'un mois à l'autre et tout, c'est pas forcément les mêmes scénaristes, les mêmes dessinateurs et tout. On n'y perd pas au change hein, parce que bon bah justement ça donne un aperçu de la richesse justement de l'écurie Marvel quoi concernant les scénaristes et les dessinateurs et la facilité qu'ont également bah justement quoi ces scénaristes, ça veut dire qu'ils sont bons quand même
oui
quoi, de se fondre dans le moule, dans l'histoire quoi de faire que bon bah on ne sent pas trop le changement quoi tu t'as pas trop l'impression que vraiment la saga Spider-Man est marquée par l'empreinte d'un scénariste, quoi qu'il y ait certaines histoires qui soient quand même très très personnelles. Mais là, bon bah ok, ça roule, ça déroule hein, depuis quand même quelques numéros, hein, faut dire quoi, depuis numéro 106, 107, ça déroule bien. Alors Spider-Man, la nouvelle donne, hein, ça je l'ai déjà dit, je vous le répète, Spider-Man n'est plus marié, le fils Osborn n'est plus mort, il est ressuscité,
il est revivant.
C'est la nouvelle. ça c'est à partir de tout l'arc qui s'appelle Brand New Day en version originale, un jour nouveau en version française et. Des choses se sont passées quand même. On sait que Jonah Jameson a eu un accident cardiaque et donc a été un petit peu écarté du Daily Bugle, le magazine, le journal dans lequel Peter Parker est photographe. Et c'est un certain Dexter Bennett qui l'a racheté parce que la femme de Jonah Jameson, qui est interprétée par J.K. Simmons dans les Spider-Man de Sam Raimi, parce que justement Jonah Jameson prend trop les choses à cœur. Concernant son journal, c'est-à-dire est vraiment à fond, 100% dans le boulot. On en connaît d'autres par ici.
Merci.
Mais et donc c'est la femme de Jonah Jameson qui, en douce, pendant que Jonah Jameson est à l'hosto, dans le coma et tout, eh bien revend le Daily Bugle donc à un milliardaire qui s'appelle Dexter Bennett.
Quoi. Ah, c'est comme qui est en plus ennemi juré justement de Beglet. Plus ou moins dans l'histoire, il aime pas.
Non, pas du tout, parce qu'en plus Bennett il a une sale manie, c'est qu'il se rappelle jamais le nom de ses employés. Alors,
c'est pas le seul.
Alors Peter Parker, c'est ça peut au fur et à mesure des histoires, il va avoir 10 ou 15 noms différents, sans problème. Jusqu'au moment où Peter Parker fait la chose de trop. C'est-à-dire que dans le 109, le Spider-Man du mois dernier, il est envoyé en mission paparazzi, c'est-à-dire qu'il doit prendre des photos d'un acteur très très célèbre et tout, qui fait comme ça une tournée de promo pour son dernier film, et il faut essayer de le choper parce qu'on sait pas avec qui il sort et tout, donc bien sûr, il faudrait choper les photos, de savoir s'il sort avec telle jeune fille ou peut-être tel jeune homme, hein, on connaît pas les préférences sexuelles du gaillard. Et Peter Parker réussit à prendre les photos, bien sûr, parce que avec son toute sa tête Spider-Man et tout, il arrive vraiment à se faufiler n'importe où quoi, donc il a un avantage certain sur les autres paparazzi. Bon, ça heurte sa conscience au départ et tout, mais il a besoin de pognon.
Mais faut croûter.
Il a besoin de pognon parce qu'il faut savoir aussi qu'il déménage. Il n'habite plus chez Tante May, mais il va prendre un appart à Manhattan. Et il va prendre un appart, comme ça se fait de plus en plus de nos jours, en colocation. Avec qui ? Avec un flic, Vin Gonzalez, justement chargé, de traquer le tueur au traceur, c'est-à-dire un tueur qui dégomme des malfrats, mais également dommages collatéraux, mais en mettant à chaque fois un traceur, Spider-Man, Spider-Man, il a une espèce de petite pastille comme ça qu'il peut balancer sur ses ennemis quand il n'arrive pas à les poursuivre. Et comme ça, ça lui donne une position GPS, genre, pas besoin de te poursuivre et tout, je sais où tu es, il n'y a pas de problème. Et donc, ce tueur au traceur, eh bien, emploie les mêmes méthodes et se fait justement passer par Spider-Man. Ce qui fait que Spider-Man est recherché activement par la police et par un certain Vin Gonzalez qui est lieutenant de police et qui est chargé de l'affaire du tueur au traceur. Donc qui recherche Spider-Man parce qu'ils sont intimement convaincus pour l'instant que c'est Spider-Man l'assassin. Et donc, bah, de ce fait, l'aura de Spider-Man empathie auprès du public, hein, bien sûr. Et bon, chaque fois qu'il sort et tout, c'est Spider-Man, ouais, il faut le dégommer et tout. Même les gens qui auparavant étaient plus ou moins avec lui, bah, se disent non, non, c'est un assassin et tout, il a changé.
Mais
donc,
je suis gentil.
Basta. Alors, Dexter Bennett, quoi, bah, vire Peter Parker du Daily Bugle, et donc Peter Parker doit trouver un autre boulot. Le problème, bon, bah, ok, quoi, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait prendre des photos, donc, ok, il va
Peter
essayer.
Peter Parker, l'homme qui prend des photos seulement en plongée.
Ouais, ouais. ou en contre-plongée, des fois. Il ne sait faire que ça, donc, il va chercher du boulot, bah, dans d'autres journaux. Manque de bol, Dexter Manette a passé le mot à tout le monde, quoi. Et donc, bah, Peter Parker ne peut pas retrouver de boulot. Il est grillé dans la profession. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, entre temps, bien sûr, les méchants ne sont pas en reste. Les super vilains, hein, qui se donnent toujours rendez-vous dans le même bar, c'est le bar des super vilains, c'est le bar bar sans nom, quoi. Enfin, où tous les super vilains qui ont déjà eu affaire à Spider-Man, bah, se réunissent comme ça. Et là, dans ce numéro, ce qui est assez rigolo, c'est le personnage principal est en fait le tenancier de ce bar qui prend des paris à chaque fois qu'il va y avoir un fight entre super-héros, entre Spider-Man et machin et tout. Il est là et puis les gars vont parier et tout. Oui, c'est lui qui va gagner. Non, il va arriver. Non, il va pas venir et tout. Et donc, ça donne un truc assez rigolo, hein, parce que bon, bah, c'est tous les commentaires qu'on peut avoir par rapport des super-vilains, par rapport à Spider-Man, par rapport à leur situation. Et il y a également une partie qui est très intéressante. C'est avant de lancer ses paris, eh bien, le bookie, comme on l'appelle, c'est-à-dire le bookmaker qui est également le patron du bar, qui prend les paris, rend visite à son père qui était l'ancien patron du bar, qui était également un super vilain dans le temps, il y a très très longtemps, quoi, dans sa petite maison de banlieue et tout, quoi. Et le mec, il arrête pas de fumer clope sur clope. Et alors, donc, ça donne un dialogue assez savoureux sur le fait de fumer des cigarettes, sur le fait de crever du cancer, tout ça. Enfin bon, il y a un message subliminal, pas tellement subliminal, à propos des gens qui fument, des gens qui fument pas, la cigarette était nocive et tout. C'est vraiment très très rigolo. On sait pas si ça a été un thème imposé, on va dire.
Ça sent un peu le témoignage anonyme, hein, du soir là-dessus.
Ouais, pas spécialement, non.
Ah merde, bon d'accord, ok.
Non, non.
j'avais mis le modifier de voix exprès.
Et donc, on en arrive à des situations assez cocasses quand même, quoi. Dans le nouveau Thunderbolt, eh bien, ça continue de péter comme c'est pas permis, parce que bon, bah, Norman Osborn, c'est le papa, hein.
Le bouffon vert originel.
Le bouffon vert, a remis son costume, et donc là.
Mais il est pas mort?
Là, ça charcle. Bah non, il est pas mort. Puisque c'est un brand new day. On efface tout, et puis on recommence, quoi. Tu vois. Voilà, tout ça c'est dans le Spider-Man 110. Sinon, dans le Marvel Heroes numéro 17, on a toujours les puissants vengeurs de Bendis avec Koi Pham au dessin et Danny Mickey à l'ancrage. Là aussi, ça va pas fort, mais il faut dire que là, les vengeurs ont sonné le rassemblement, pas seulement de l'équipe originale des Vengeurs, mais également des autres super-héros de la galaxie Marvel, hein. Il y a pratiquement tout le monde, hein, on va dire, quoi. Exception en fait des X-Men, quoi. Il y a Captain America, je croyais qu'il était mort. Il y a Spider-Man, il y a tout le monde. Et pourquoi? Parce que Sentry, qui est le super-héros qui est l'équivalent de Superman dans le monde Marvel, quoi. C'est-à-dire, c'est le mec le plus fort du monde et tout, le mec qui arrive à repousser les planètes, enfin tout le bordel, comme Superman, quoi, tu vois, hein, parce que bon, bah, ça n'existait pas, hein, dans la galaxie Marvel.
C'est l'équivalent de Superman chez Marvel, en fait.
Chez Marvel, ouais. c'est lui, hein, de toute façon.
Sauf qu'il est instable.
Super instable. Le mec, il pète les plombs, vite fait, bien fait, enfin bon, c'est toute une saga, ce mec-là, quoi, on pourrait dire. Et là, bah, ça se.
Il y en a qui lui font des blagues.
Et le problème, c'est que bon, bah, Sentry s'est administré un virus expérimental et tout, quoi, pour essayer justement d'avoir moins de sautes d'humeur et tout, d'avoir moins de crises de conscience et de trucs comme ça. Et le problème, quoi, c'est que ça lui fait provoquer, c'est-à-dire qu'il va dégager plein de radiations qui vont empêcher les autres de s'approcher de lui, quoi. Et il va encore plus péter un câble. Il y a également un nouvel arc qui commence des Vengeurs Initiative, c'est-à-dire cette espèce d'école pour jeunes super-héros et tout, à l'instar de l'école du professeur Xavier pour les X-Men. Hein, c'est grosso modo la même chose, sauf que là, le contexte politique est différent puisque ça se passe après la guerre civile. Donc, il y a les histoires de recensement. En fait, l'initiative est créée pour qu'il y ait assez de super-héros pour pouvoir choper les super-vilains et les super-héros non enregistrés dans chaque état des États-Unis. Parce que bon, pour l'instant, les super-héros, ils sont bien sûr cantonnés aux méga-city, hein, on va dire New York pour Peter Parker, d'autres grandes villes de l'Est ou de la côte Ouest pour les Vengeurs de la côte Ouest, enfin bon, pour schématiser, mais sur les autres états, il y a que dalle. Et donc, comme il y a des super vilains et des super héros non enregistrés partout sur le territoire américain, parce que bon, le reste du monde, ils s'en tapent, hein, ça c'est clair, eh bien, il va falloir former plein de super héros pour justement faire la police. Et donc, c'est l'initiative qui sert à ça. Et là,
super héros, Starak.
Dans la première, dans le premier grand arc, hein, qui a duré quand même, on va dire, tranquille 16 numéros, hein, puisque là c'est le numéro 17, ça a démarré, je crois, depuis le numéro 1 de Marvel Heroes. Eh bien, là, on avait suivi surtout l'histoire d'un des jeunes super-héros en devenir, MVP, à savoir Michael Van Patrick, qui avait la possibilité de se dédoubler, enfin, d'être plein de Michael Van Patrick à la fois, tu vois, enfin bon. Là va commencer l'histoire, eh bien, on va suivre l'histoire d'un nouveau jeune super-héros, hein, qui s'appelle Emery Schaub. Voilà. Et il y a également Thor, bien entendu, avec la fin de l'âge du tonnerre, dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, et le début surtout du règne du sang. Et alors là, ça crache à fond les manettes, et c'est vraiment très 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 glauque, très
alors,
très violent.
Règne du sang, c'est Thor toujours, hein.
Ah ouais, ouais, oui, c'est toujours Thor, hein, de toute façon, quoi, hein, mais un nouvel arc, hein, d'accord.
Ça a l'air pas mal.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça dépote grave. Alors ça fait toujours partie.
Mais c'est non, refais-le le grave, il était pas assez là.
Ah ouais, non, c'est grave là.
Aujourd'hui, Xavier découvre les effets.
Alors, non, mais ça fait un bail que je m'en étais posé.
Ce sont toujours des histoires. Ça fait toujours partie des histoires qui sont plus ou moins des one shot sur deux ou trois épisodes, mais qui sont des histoires qui se suffisent à elles-mêmes, qui ne font pas partie de du retour de Thor tel qu'il avait été instillé au départ par Straczynski et Coipel. Hein, c'est pas Coipel qui dessine en ce moment, parce que Coipel est quand même relativement lent au niveau du dessin,
a du mal à tenir
les délais.
Donc, faut dire qu'il est plus dans un rythme européen qu'américain.
Voilà. Et pourtant, il a quand même été un petit peu formé. À part sa formation en France, il a quand même travaillé professionnellement au début de sa carrière professionnelle aux États-Unis. Donc il devrait un petit peu avoir l'habitude. Enfin bref, hein, tant que ça plaît au patron de Marvel, il n'y a pas de problème, nous on achète. Donc voilà, ça c'est le Marvel Heroes numéro 17. On passe à quoi là maintenant?
On va faire une petite pause.
Ah ouais.
Sisters of Mercy, 1969. C'est le nom du morceau, pas de l'année.
Here with nothing to do. Well, that's nothing. must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan, Blowing the Wind. Vous êtes présenté en Dolby Mono sur Arme
partout
et avec une sub de la mort.
Avec aujourd'hui, on part de Watchmen, le.
Ah, he comes of the universe.
Dun, 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 dun,
non, tout, c'est pas tout, ça, pardon.
C'est Flash Gordon. Donc Watchmen, le film adapté du roman graphique de Alan Moore et David Gibbons, qui est sorti mercredi, donc il y a deux jours, trois jours. C'est un film de, adapté pour le cinéma par Zack Snyder avec Jackie Earle, Patrick Wilson, Billy Crudup et Carla Gugino, entre autres. Alors, dans une réalité alternative en 1985, une uchronie, comme on dit, le monde est au paroxysme de la guerre froide et au bord de la catastrophe nucléaire. Un décret gouvernemental a obligé il y a quelques années les héros costumés à révéler leur identité. Un de ces anciens super-justiciers, le comédien, est assassiné. Son compère psychotique Rorschach mène l'enquête, persuadé qu'on veut supprimer les héros en costume. Alors, de toute façon, on va pas récapituler tout le parcours cataclysmique du film.
C'est infaisable.
Parce qu'il faut savoir que la production a commencé il y a des années, avec
moult... 87, c'est-à-dire 2 ans après la sortie du bouquin.
Voilà, avec moult déboires, il y a eu des réalisateurs de renom qui se sont succédés au développement du projet, comme Terry Gilliam, Darren Aronofsky, et même Guillermo del Toro. On a proposé à Guillermo del Toro de réaliser ce film. Il a dû refuser pour se consacrer au diptyque Bilbo le Hobbit.
Ouais.
Donc voilà,
ouais, il a toujours dû faire...
Tu t'imagines, tu te mets à sa place, et alors de côté t'as Watchmen, de côté t'as Bilbo.
Bilbo, c'est moins infaisable que Watchmen. Allez, je prends Bilbo. Au revoir.
Oui, sauf que c'est deux films. Voilà. Donc, En tout cas,
on arrive à un résultat rigolo, c'est que sur les 6 personnages principaux, 5 n'étaient pas dans le business au moment du début de la production du film.
Ils n'étaient pas dans l'industrie du cinéma, effectivement. Alors en tout cas, Watchmen, on l'a vu, le film existe, et, tant bien que mal. Et finalement, résultat, donc on vous a dit tout à l'heure, Xavier a arrivé devant la projection avec un a priori négatif. Moi, j'avais été un peu refroidi par certains trucs que j'avais vus sur le net, mais j'avais quand même une grosse attente.
Ouais, et puis alors les pubs accrocheuses du style le Silk Spectre qui dit « je sors à 3h du matin pour faire des bêtises », bon, ça le fait pas du tout, quoi. Ça le fait pas du tout, quoi.
Et oui, c'est effectivement, c'est une.
C'est pourtant une citation du bouquin.
Elle a fait c'est une réplique. Elle sort au hibou en disant oui, ça me manque justement ce.
Ouais, mais
elle
l'accroche publicitaire, si tu veux, quoi. Ça le fait moins, quoi.
Oui.
Ça le fait vraiment moins, quoi.
Il y avait une autre accroche où c'était Ozymandias devant son mur d'écran avec sa créature qui dit « Je suis l'homme le plus intelligent du monde, c'est juste que je voudrais... C'est pas que je voudrais pas être le plus intelligent du monde, c'est que je voudrais pas que ce soit ce monde-là. » Ça, c'est mieux.
C'est mieux, ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film ? Alors, on va commencer par les personnages. On va dire que le film est porté à bout de bras, mais ça, c'est peu de dire, par Rorschach. Ils ont absolument réussi le personnage, la transposition avec l'acteur Jackie Haley, que moi, perso, je ne connaissais pas, même si sa gueule me dit quelque chose. Après, j'ai regardé un peu sa filmo, effectivement, j'ai pas vu un seul film dans lequel il a joué, mais il a vraiment, en plus, sa voix qui rythme le film avec la voix, justement, sa voix off, qui fonctionne super bien. Alors, faut le voir en VO, bien sûr, le film.
Il a vraiment, en plus, la gueule de l'emploi. Il ressemble incroyablement à la BD.
Il ressemble à la BD.
C'est un acteur qui avait été recommandé par les fans, justement, sur le net, qui voulait lui et personne d'autre dans le rôle de Rorschach. Donc, on doit quand même avouer que ça le fait, mais vraiment. Il y a aussi d'autres personnages qui le font pas mal aussi. C'est le couple, justement, on en parlait de Laurie avec le hibou. À mon sens, c'est vraiment la touche d'humanité du film, puisque il faut dire quand même que bon, Rorschach, c'est un psychotique, Dr Manhattan, c'est presque Dieu, t'as des personnages qui sont un peu olé olé. Là, c'est vrai que c'est un couple avec le gars qui joue le hibou, qui est un peu qui a pas vraiment un physique de jeune premier. La nana, elle est dans l'ombre de sa mère, donc les gens, ils se sont rangés, ils ont révélé leur identité et tout. Et finalement, ils se retrouvent et puis ils retrouvent l'excitation d'être en costume et tout. Et ouais, ce serait bien qu'on retrouve les costumes quand même. C'est vraiment une touche d'humanité.
Bon, la loi nous l'interdit, mais allez, on va la faire, la loi, comme d'hab.
Voilà, ensuite on a le comédien, le gars facho par excellence.
Là aussi, il est très proche de la BD.
Voilà, mal rasé, il a une bonne présence physique, vraiment aussi, également assez réussi. Dr Manhattan, de toute façon, le pauvre, il est pauvre acteur, c'est un personnage qui est chiant par nature puisqu'il connaît tout, il connaît tout sur tout, il sait tout faire. Il est juste détaché du monde, alors il...
Ouais, désabusé, bon...
Voilà, ouais, l'humanité...
À quoi ça sert ?
Voilà, c'est surfait, l'humanité et tout. Ouais. Donc bon, Billy Crudup, bon, c'était le rôle du celui qui jouait le rôle du fils dans Big Fish, hein. C'est du motion capture, donc il a joué toutes ces scènes. Ensuite, ils ont refait le personnage en 3D. Dr Manhattan, franchement, il y avait de quoi avoir peur pour le rendu, hein. Ça pouvait facilement tomber dans le surfeur d'argent, et ils ont réussi quand même quelque chose au niveau rendu visuel.
Au niveau
chose
du
de pas
rendu
mal.
Et surtout de l'éclairage, c'est une chose dont on a beaucoup discuté avec Thomas quand même en off, c'est que dans la plupart des productions, dans les effets graphiques, c'est très difficile d'arriver, quand on fait de l'infographie, à plaquer la lumière qui va avec. Et là, Dr Manhattan, lui, de bleu. La moindre personne, moindre objet, par où passe Dr Manhattan, c'est bleu. Voilà.
Oui.
C'est réussi pour ça.
Oui, on va dire qu'il il irradie de lumière aussi les éléments de décor, ce que tu voulais dire.
Voilà,
oui.
c'est franchement crédible.
Et puis surtout, élément fidèle par rapport à la BD, on voit sa stouquette. On la voit.
Trois fois,
mais bon, grand écran, donc on la voit bien. On peut parler légèrement de la fin sans spoiler. La fin a été changée par rapport à la bande dessinée, donc.
C'est peut-être la seule liberté scénaristique.
Exactement, la seule liberté scénaristique qui, étrangement, passe très très bien.
Et même, c'est dommage qu'Alan Moore ne verra jamais le film. Mais finalement, est peut-être mieux que la BD.
Alors, on vous rassure, il n'est pas mort, hein, c'est juste une volonté de sa part.
C'est une volonté de sa part, il veut même pas toucher le pognon. Mais, à notre sens, après avoir pas au lieu de la BD, mais pas dans la nuit, mais finalement c'est logique.
C'est quelque chose qui s'intègre très bien, qui se tient, qui est dans le prolongement du reste. Et c'est vrai que si vous n'avez pas lu la BD, il y a une fin dans la BD qui, science-fictionnesquement, visuellement aujourd'hui, ne passerait difficilement en tout cas.
Alors que finalement, sur la psychologie des personnages, cette fin-là passe beaucoup mieux.
Tout à fait. Alors par contre, on va maintenant aborder peut-être le truc qui fait mal, hein, puisque au niveau de, du fond, l'adaptation, il n'y a rien à redire, c'est nickel. Par contre, au niveau de la forme, c'est vrai que le film en fait décidément trop, au niveau des ralentis, au niveau des poses des personnages, au niveau de... il faut savoir que Zack Snyder, quand il adapte une BD, il avait déjà fait dans 300, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les cases de la BD, il s'en sert comme storyboard et il essaie de meubler entre. Donc... on a un peu l'impression qu'il a meublé avec du ralenti, c'est-à-dire, bon, le personnage, il faut qu'il aille entre l'espace entre les deux cases, là, il faut qu'il aille d'un point A à un point B, ou qu'il faut qu'il dise autre truc pour continuer la phrase.
Ce que l'on appelle l'art séquentiel, donc, ben, lui, oui. Il a fait le morph entre les deux.
Et ben,
très marrant.
Voilà, alors il y a les cheveux qui sont au vent parce qu'il y a un courant d'air, c'est au ralenti, la nana, elle descend des escaliers, c'est au ralenti, le vaisseau qui décolle, c'est au ralenti aussi. Ça fatigue, franchement, les bastons, eh ben, c'est du 300.
Là où la BD fatigue justement par les discours, les dialogues, oui. long, là il arrive à rendre les mouvements longs.
Oui, ça rend presque l'ensemble un tantinet insipide aussi, puisqu'il n'y a pas de changement de rythme, c'est pas nerveux en fait, c'est quelque chose de très coulé, t'as l'impression d'assister à une démo froide. Et ça refroidit aussi les personnages. Les bastons, c'est comme du 300, c'est-à-dire que c'est à base d'accéléré et de ralenti. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'ils nous proposent quelque chose d'autre, de nouveau, puisque ce ne sont pas des spartiates, même si ce sont des justiciers. Alors, on en parlait aussi avec Xavier en sortant de la projection, c'est-à-dire qu'ils ont accentué le côté « on est des justiciers, on n'a pas de pouvoir, mais on fait mal ». Donc, très facile pour eux de dégommer des lavabos à main nue.
Non, les lavabos passent encore, mais les tables en marbre de 2 cm et le mec, il est même pas tué...
C'est les justiciers.
C'est un petit peu, c'est justement ce qu'allait reprocher Alan Moore, c'est ils vont en transformer ça un truc pour ados.
En tout cas, c'est vrai qu'on peut se mettre à la place des producteurs et du réalisateur. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On adapte une BD qui est classée la seule dans le Times parmi les plus grandes œuvres littéraires depuis les années 1923.
Non, c'est pas ça. Ce qu'ils avaient fait, le Times avait proposé un top 100 des plus grandes œuvres littéraires du siècle passé.
Oui, mais c'est ça.
Voilà.
Et ça a été la seule BD qui a été citée par le Times. Et. Où j'en étais. Oui, donc on adapte un roman graphique qui est cultifié là, et on fait un film, on essaie de le rendre culte dès sa sortie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On abuse des ralentis, on fait. Voilà, les personnages ils sont.
C'est esthétisant.
C'est super esthétisant, mais c'est vrai que ça.
Vous voulez voir un film d'un étudiant des Beaux-Arts ? Il y a des ralentis.
Oui,
non,
bon,
pardon Thomas. Non,
l'étudiant des Beaux-Arts, il va faire un truc saccadé parce qu'il va tourner en DV et dans la forêt parce qu'il ne pourra pas payer les droits pour le lieu. Et non, c'est vrai que ça manque de chaleur parce que c'est vrai que dans un registre proche, on avait quand même au niveau groupe de super-héros un peu has-been et un peu minable aussi dans le look. On avait quand même l'excellent Mystery Man qui était très humoristique,
ouais.
Mais qui dégageait pas mal de chaleur. Tu te disais, oh, ils sont sympas quand même ces gars. Là, ils sont un peu inatteignables en fait. Même si ils sont devenus des employés de bureau, des mecs avec une vie normale. Ce que tu as aussi dans Les Indestructibles de Pixar, puisque c'est un film qui mélangeait à la fois les contes fantastiques et aussi la loi de recensement.
Il y a pas mal de choses qui sont reprises. D'ailleurs, il y a une thèse qui a circulé sur Boing Boing comme quoi, justement, Les Indestructibles était une très bonne adaptation de Watchmen. Ce en quoi je n'étais absolument pas d'accord et...
Ben, au niveau en tout cas, que font des anciens super-héros pour occuper leur soirée ? Donc ils font croire à leurs femmes qu'ils vont à des bowling, en fait ils espionnent les fréquences radio de la police. C'est quand même une adaptation assez rigolote et puis finalement pas si éloignée. Donc voilà, on peut regretter un effet frigo pour le film. Voilà, bon après, effectivement, si on n'a pas le regard du gars qui découvre l'histoire sans avoir lu la BD, donc ce serait intéressant de discuter avec des gens qui ont découvert le film et en découvert l'histoire aussi. Alors on en a un peu fini avec Watchmen, donc on va rappeler la référence. Watchmen, donc le film de Zack Snyder avec Jackie Earle et Patrick Wilson, Billy Crudup, Carla Gugino qui joue la mère du spectre soyeux, donc c'est la nana dans le film qui joue la mamie. avec un faux coup de personnes âgées et tout. Ne vous fiez pas à ça, puisque Carla Gugino, sa vraie apparence, c'est quand on la voit dans la fleur de l'âge dans les années 40. Hein. Carla Gugino, c'est celle qu'on voyait dans Snake Eyes, qu'on a vu dans des pubs. Ouais. Pour les... Voilà. Watchmen, la BD de Dave Gibbons et Alan Moore.
Sachant que là, donc, tu as l'édition de chez Delcourt.
L'édition qui n'est plus disponible.
Qui n'est plus disponible. Je tiens juste à faire une petite remarque. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est plus Delcourt qui le distribue maintenant. C'est Panini qui a repris le flambeau, qui a sorti deux éditions. Juste une remarque à propos de cette édition. Je l'ai chroniquée il y a 10 ans sur Télé Toulouse et j'aurais juste une pensée quand même pour nos confrères qui sont en plein plan social. Et c'est vrai que j'avais mis un mois à l'époque pour le lire parce que c'est quand même quelque chose de très dense et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'a priori et finalement ils y sont arrivés. Ça a été la très grande surprise. Voilà.
Voilà, donc maintenant si vous voulez vous procurer la BD Les Watchmen, donc c'est une édition qui est plus chère que celle-là en Ultra Collector et ils ont sorti une version souple à 15€. 15 euros, oui.
Il y a une version à 30 euros aussi, quoi.
Est-ce que t'es sûr?
Oui, puisque bon, elles sont. Je les ai vues en devanture d'une librairie toulousaine.
Coucou Odile.
De la rue des Filatiers.
Voilà, coucou Odile. Ça lui fera plaisir.
Donc, t'as l'édition souple à 15 euros, t'as l'autre édition qui est d'un format un tout petit peu inférieur à celle-ci, hein, donc équivaut aux 30 euros, quoi.
D'accord, et t'en as aussi une collector qui est costaud et qui est beaucoup plus chère. Et on a aussi, on en avait parlé, c'est le hors-série de Comic Box Special Watchmen. Qui est du printemps 2009, donc il est encore disponible en kiosque, et vous pouvez vous procurer, c'est à 7,50€ en kiosque, voilà ce qu'on
juste
pouvait dire.
Chose,
sur...
on a juste oublié de signer une chose, c'est qu'on a eu des incidents de projection, on était allé au Gaumont,
Wilson.
À mon avis, ils croyaient pas trop au film, parce que c'était une salle moyenne. Il faut dire aussi que c'est une durée assez longue, 2h45.
Non, mais c'est la salle
moyenne
parce que c'est la VO, quoi.
C'est la salle moyenne parce que c'est la VO et que c'était la deuxième séance. Même malgré l'horaire de 21h10 assez tôt, il y avait quand même la séance à 19h. Enfin, à 19h30.
Voilà, et malgré tout, bon, ben, il y a beaucoup de monde. Attention, achetez vos places sérieusement à l'avance. Nos amis se sont fait avoir hier. Nous, on y a pensé.
Le film affiche complet à toutes les séances, méfiez-vous. Et juste, je terminerai par un truc que j'avais pas marqué, mais je me suis rappelé entre-temps. Gérard Butler, qui jouait Léonidas dans 300, a prêté sa voix à une voix off qui, justement, lit les passages de la BD de pirates qu'on voit dans la BD, qui n'est pas film. Et en fait, ce sera un bonus sur le DVD. Apparemment, un segment d'animation, justement, qui va relater les aventures de la piraterie, la fameuse BD qui a été squeezée pour l'adaptation ciné.
Oui, avec... justement, c'est la question que je voulais poser, là. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont réussi à intégrer...
Elle n'y est pas. Ils l'ont pas mise.
Parce que bon, elle est vraiment... ça fait partie du
Il y a eu un premier montage de 3h30. Un de trois montages de 3h, ils ont réussi à le réduire à 2h45. Voilà. Après, juste une chose, il y a beaucoup de délire, beaucoup de fantasmes autour de Watchmen. Alors, ce serait Watchmen Babies dans V pour Vacations. Il y a aussi eu un Watchmen manière cartoon du samedi matin, donc manière Batman, qu'on a vu passer. C'est une galerie d'images sur Flickr qui est pas trop mal. Et je tiens à rappeler, on va essayer de la retrouver, de la mettre sur le site supplementweekend.fr. Il y a eu un délire, un détournement autour de Watchmen, si c'était scénarisé par Stan Lee. Donc ils ont repris des planches complètes de Watchmen en réécrivant les dialogues. C'est en VO, mais c'est archi jouissif dans le délire.
Ah bah, Dr. Manhattan, c'est Stan Lee. Hein. L'expérience qui vire au drame, où il se fait atomiser, voilà, c'est du Stan Lee, ça. Enfin...
Sauf que là, ça va beaucoup plus loin, oui. Et c'est complètement délirant. Donc voilà, on va essayer de le repasser dans le supplementweekend.fr.
À signaler aussi que sur le générique et sur les affiches et tout, le nom d'Alan Moore n'est pas cité du tout. Hein, Alan Moore a refusé carrément,
même
comme il l'avait fait pour les autres adaptations de ses graphic novels.
Voilà. Playgroup number one. Et juste après, du bouquin et des talk shows.
Travel too far.
grand number one du sport, lui, il a dit « Je vous ai amené des bouquins, mais sans les images. »
Oh.
Si, si, t'as l'image sur la couverture. Allez, Pete Dexter encore. Oh, je vous avais parlé de Pete Dexter en septembre, septembre dernier, me semble-t-il. Hein, pour ça, vous... vous allez sur le supplément week-end machin truc bidule et tout, et puis super, vous recherchez les vieilles émissions, vous aurez les références de Pete Dexter. C'était le son dernier livre sorti, God's Pocket, qui en fait était une histoire plus ou moins un roman autobiographique, on va dire, mais enfin bon, novelisé, hein, bien sûr. Et là, ben Pete Dexter, et c'est en lisant ce bouquin que j'ai appris justement que Pete Dexter, c'était pas son premier, mais qu'il en avait fait d'autres, dont un qui a été porté à l'écran et qui a donné une série, qui a été passé par Canal+, et qui a été abondamment regardé et abondamment
oui, commenté.
Ouais, commenté.
J'adore quand il fait ça.
Mais qui a bien marché en tout cas, hein, donc
plébiscité.
Beaucoup de louanges, plébiscité, voilà, c'est ça exactement. C'est bien entendu Deadwood, l'Ouest, le vrai, mais comme le dit la quatrième de couverture, je cite, ici rien n'est normal, même le temps. Le jour de notre arrivée, on a vu deux hommes portant une tête humaine en pleine rue, un Mexicain avec celle d'un Indien et une crapule qui louchait et qui s'appelait Boone May avec la tête d'un hors-la-loi. Ça donne un petit peu l'ambiance. Le livre, en fait, est assez différent de la série. Dans la série, il faut savoir que les personnages principaux, c'est le tenancier de bordel, Al Swearingen, interprété par Ian McShane, ainsi que Seth Bullock, qui est interprété par Timothy Olyphant, qui est le shérif de la ville de Deadwood, en fait. Et dans le livre, en fait, ça raconte plus l'histoire de Charlie Hutter, qui est le héros principal de ce livre, et qui accompagne Wild Bill Hickok, qui est un personnage fameux de l'Ouest américain. Hein. Il y a même un certain Walter Hill qui a fait un film dans les années 90 avec Wild Bill, hein, interprété par Jeff Bridges. Et donc, eh bien, ça raconte l'arrivée de Charlie Hutter, de Wild Bill Hickok et jeune frère de la femme de Charlie Hutter, qui elle est restée au pays, on va dire, hein, et qui donc arrive à Deadwood pour voir ce qui s'y passe un petit peu, dans le cas de Charlie Hutter, pour essayer de faire des affaires, bien entendu. Et là, bon, ok, ils se rendent compte que l'Ouest, le vrai, Deadwood est une ville qui est située dans les Black Hills. Les Black Hills, c'est c'est un territoire indien, donc amérindien, on va dire, hein, pour rester politiquement correct, qui a été d'ailleurs le théâtre de la mort de Custer, hein, ça c'est historique, hein, y a pas de problème. D'ailleurs, Pete Dexter, au début du bouquin, le signale, hein, là, je vais retrouver la page et tout, le cadre dans lequel se déroule ce roman, de même que les principaux événements, l'incendie qui détruisit Deadwood, l'assassinat de Billy Cock et de la poupée chinoise, les conditions météorologiques, les vies et pérégrinations de Charlie Hutter, sont le reflet de la réalité. À l'exception de Malcolm Nash, tous les personnages ont également existé ou se trouvaient à Deadwood à l'époque où ont lieu ces instruments. C'est-à-dire que bon, bah ok, il y a eu tout un travail de recherche historique très très complet, quoi, parce que bon, bah c'est vraiment très très complet au niveau de la description de la ville, au niveau de la description des différents personnages, de la description des antagonismes qui pouvaient exister entre les colons qui arrivaient, entre les gens qui étaient en train de construire cette ville, enfin les pionniers, on va dire, et les populations migrantes, hein. Là il y a question des immigrés chinois, hein, parce que bon, ils étaient quand même assez nombreux. C'était l'époque où on commençait à construire les chemins de fer, on commençait à relier les grandes villes, où on essayait de faire la traversée est-ouest le plus rapidement possible, parce qu'avant, bah, il y avait que les chevaux, donc c'était un petit peu chiant, un peu long et pas sûr du tout. Donc et les Chinois, les Asiatiques en général, ont grandement contribué à fabriquer ces lignes de chemin de fer, hein, sous des conditions, bon bah on va pas revenir là-dessus, quoi, tellement c'était horrible. Et dans ce bouquin, on tombe sous le charme, c'est excellent du début jusqu'à la fin. Le bouquin, à mon avis, nettement supérieur à la série, ça y a aucun problème. Il faut savoir que Pete Dexter, dans ce bouquin, eh bien, a pris le parti justement quoi de mettre les personnages les plus connus un petit peu en retrait, surtout le personnage de Wild Billy Cook, qui est le personnage le plus connu, hein, que généralement on connaît assez bien, hein, parce que bon bah ok quoi, à l'instar de Jesse James, à l'instar d'autres. Comment il s'appelle l'autre là,
Billy the Kid,
enfin tous ces personnages là, Wild Billy Cook là est décrit comme un personnage qui est au crépuscule de sa vie quoi, il est malade, bon on sait pas exactement ce qu'il a mais on pense deviner, c'est jamais cité vraiment, bon on devine quand même qu'il s'agit de la syphilis donc qu'il va crever quoi, y a pas de problème vu les soins qu'il s'auto-administre pour essayer justement de continuer à survivre, bon bien sûr, il va crever hein, dans le bouquin quoi. Il est assassiné d'ailleurs lâchement en plus hein, d'une balle dans la tête, dans le dos. Enfin bon, tu vois par derrière. Enfin bon, ça rentre trash alors qu'il est en train de jouer au poker. Enfin bref quoi, c'est pur western de toute façon quoi. Mais ça se lit vraiment super bien du début jusqu'à la fin. C'est quand même un pavé, hein, on va dire. Hein. Même dans sa version de poche, on arrive à 606 pages.
Ouais. Hein,
ah donc, oui, quand même.
Bon, c'est pas mal. Mais quand on rentre dedans, il y a pas de problème quoi, on est dedans quoi jusqu'à la fin. C'est Pete Dexter d'Edwood. Le bouquin était sorti en 86 dans sa version originale et seulement en 94 dans la version française chez Gallimard. Entre temps, Pete Dexter a bien entendu écrit d'autres bouquins dont Cotton Point qui est le bouquin qui l'a fait le plus connaître, pas ici en Europe mais aux États-Unis, car c'est le premier livre, c'est pas son premier livre mais c'est le livre qui lui a fait obtenir le National Book Award, c'est-à-dire le grand prix du livre aux États-Unis, et qui d'ailleurs a été adapté au cinéma sous le nom Rage. Cotton Point, c'est une petite ville pas loin d'Atlanta. Atlanta est située en Géorgie bien entendu, donc dans un état du sud. Ça raconte une histoire très très simple, celle d'une famille de noirs qui vivent bien entendu un petit peu à l'écart de la ville de Cotton Point, et le plus âgé des jeunes fils de Miss Mary McNutt, la grosse maman noire qui fait des ménages chez les blancs bien entendu, chez les riches, vient d'obtenir son premier boulot, et son premier boulot il va travailler à l'asile, donc à l'asile de fous, et donc il peut dire ok maintenant je suis solvable et donc je vais essayer de me payer une bagnole. Et à Cotton Point, quand on veut de l'argent, quand on veut eh bien s'acheter tout et n'importe quoi, on va chez qui? Chez un monsieur qui s'appelle Paris Trout, qui est en fait ni plus ni moins qu'un usurier, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire il prête de l'argent, prêteur sur gage et tout, mais également hein, il peut vous vendre des voitures, à manger, à boire, ce que vous voulez, et donc le plus jeune des McNuts va acheter une voiture à crédit à monsieur Paris Trout, et Paris Trout lui dit ok quoi, chaque mois tu me rends tant et tant d'argent. Vient le moment du premier paiement, j'ai pas assez là, et tout, et donc Paris Trout en bon vieux sudiste qui à l'habitude des choses bien faites et tout, va dire je vais revenir là-bas. Il revient avec un homme de main, ex-flic qui a été viré de la police parce que il était un petit peu trop brutal vis-à-vis surtout des nègres. Donc il a été quand même viré de la police, et dans être viré de la police dans un état du sud, ça se passe en 1950, hein, c'est à dire bonne époque.
Celle des émeutes.
Avant, un petit peu avant les émeutes quoi, mais bon ça commence à être vraiment très très chaud. Paris Trout donc va revenir avec cet homme de main et tout pour essayer de récupérer son dû, et ça va très mal se passer parce que il va être obligé de sortir son arme et de tirer sur la vieille mama hein, qui a à charge toute la famille, hein, c'est-à-dire au moins 5 ou 6 gosses, et qui va également dégommer la plus jeune des petites filles qui avait été recueillie par cette famille parce que sa famille d'origine ne voulait plus d'elle parce qu'elle s'était fait mordre par un renard. Bon, je vous passe les détails, mais ça situe un petit peu le contexte, on va dire familial et social de l'époque. Et ce bouquin va raconter l'histoire de Paris Trout qui est sûr de son droit. On me devait de l'argent, donc je suis venu récupérer mon argent. Et puis on va travestir un petit petit peu la vérité en disant bah oui, non, mais on s'est défendu, hein, c'est de la légitime défense et tout. On l'a tiré dans le dos, mais enfin bon, c'était quand même la légitime défense. La petite fille meurt, hein, à l'hôpital. La maman survit, mais garde les 4 balles qu'elle a eu reçues dans le corps. Donc, parce que bon, bah, ça coûtait trop cher de les enlever et qu'elle risquait vraiment trop gros physiquement si on essayait de les enlever. Et donc, bah, ça va raconter l'histoire du procès de Paris Trott et tout. Le bouquin est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est dévolu en fait à un des personnages principaux de l'histoire de Cotton Point. C'est vachement bien foutu, hein. On rentre dedans également comme dans le Deadwood. C'est pas exactement la même progression linéaire parce que bon, on va sauter des fois une, deux, voire trois années, mais c'est tout à fait éloquent en ce qui concerne la situation sociale et politique dans les États du Sud à cette époque-là, c'est-à-dire en 1950, un petit peu avant que commencent les émeutes, hein, c'est-à-dire que bon, la Géorgie est pas loin de l'Alabama, Birmingham, rappelez-vous, hein, Rosa Parks, la première nana à monter dans le bus et tout, ça c'est l'image très très célèbre et tout. Ah ben ça se passe juste à côté, mais exactement, c'est exactement la même situation. C'est très très bon, très très bon, hein, Pete Dexter là, je connaissais pas du tout, hein, je suis en train vraiment de découvrir et ça, là vraiment j'ai envie de lire les autres livres qu'il a fait. Il a fait d'autres livres vraiment, Un amour fraternel, ainsi que Paper, je m'en rappelle pas, le Paperboy, voilà, donc plus d'autres bouquins écrits après Cotton Point dans les années 90, mais enfin bon, ça va peut-être être une petite série comme ça, quoi, durant l'année qui vient, quoi, avec la chronique des autres bouquins de Pete Dexter, Cotton Point. Ça, c'est la vieille édition originale, édition de l'Olivier. Hein, Deadwood était sorti sur Gallimard, mais on vous pouvez le trouver en poche Folio, hein, chez Folio Policier, donc hein, l'édition à moins cher, quoi, de toute façon. Et le Cotton Point certainement a été également édité en édition de poche, voilà. Donc Pete Dexter Cotton Point et Pete Dexter Deadwood, deux bouquins à lire absolument. Vous serez vraiment pas déçus du tout.
Musical tree, we are A and C. Two fruits from a musical tree, we are A and C. Two fruits from a musical tree, we are A and C. Two fruits from a musical tree, we are A and C.
À la télé, alors quelques brèves, vite fait. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle. La brigade Navarro, c'est fini. Elle n'a pas survécu, hein, au départ de Roger Hanin. Ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris. Et comme le patron de TF1 actuellement est dans une logique de compression, eh ben, on peut dire que les petits jeunes de la brigade Navarro ont pas tenu le choc, hein, c'est-à-dire il n'y a pas assez de monde devant la télé, quoi, pour les derniers épisodes. Donc ce sera pas reconduit, profitez-en si il y en a encore qui sont diffusés. Ce sont les derniers. Alors, ça a aussi un petit peu de rapport avec une série policière diffusée par TF1. C'est l'adaptation, vous avez déjà regardé l'adaptation française de Law and Order.
Oui. Avec Vincent
Pérez.
Carrez, oui. Oui, c'est sympa, mais c'est photocopié pour l'histoire et les bureaux sont trop clean.
Ouais, voilà. c'est un peu light, quoi, hein, d'accord. Il y a également au niveau de cette franchise, eh bien, une franchise qu'on ne verra certainement, probablement jamais en France.
Version allemande.
Ce sera certainement dommage à mon avis. Il s'agit de Law and Order version Great Britain.
Oh putain, là ça doit valoir.
Qui est en train de passer à l'écran en ce moment, quoi, de l'autre côté du channel. Avec Jamie Bamber, sur, bah, sur, qu'on connaît. Hein.
Sur quelle chaîne? Puisque ceux qui captent Astra l'ont peut-être en clair.
ITV4 ou ITV3, donc pas mal, ça peut être pas mal hein, quand même quoi. Avec donc dans les rôles principaux Jamie Bamber, hein, c'est
je sais pas.
Ah, vous êtes pas fan des séries de science-fiction. C'est Apollo dans Galactica, la nouvelle version avec Edward James Olmos. Hein. On a également Bradley Walsh qui est connu, mais enfin bon, il y a beaucoup d'anglais qui sont d'acteurs anglais, d'actrices anglaises qui sont connus pour avoir passé dans Coronation Street. Hein, ça c'est le passage plus ou moins oublié. Harriet Walter et Ben Daniels qu'on a vu comme guest dans Spooks ou ME5. En français, si vous préférez, et surtout Bill Patterson dans la version originale de Traffic, à savoir la mini-série coproduction anglo-allemande, afghano-pakistano, tout ce que tu veux, hein, qui est
une meilleure adaptation du roman que le film.
Oui, qui est plus fidèle, quoi. Qui est plus fidèle, hein. C'est-à-dire, qui est plus longue, hein, bien sûr, hein, parce que c'est une mini-série, hein, donc ça dure vachement plus longtemps que le film de Soderbergh, qui est quand même très très bon, il faut dire, hein, qui doit surtout le film de Soderbergh doit surtout sa qualité eh bien à l'interprétation de ses personnages principaux, Benicio del Toro en tête d'ailleurs, hein, ça c'est à part quoi. Bill Patterson donc et une nana que tu connais bien, Freema Hageman, Martha Jones.
Oh punaise.
Dans Doctor Who et dans Torchwood, bien entendu. Hein. Donc tout ça,
la rondelette.
C'est celle qui sauve le monde, quand même. Ouais. Merde, attends. Ouais.
Bah, ils ont tous plus ou moins sauvé le monde.
C'est la noire ou c'est la nouvelle?
Martha Jones, c'est la black. Ouais. Mmh.
D'accord.
Et pourtant, elle a un nom celtique, tu vois. C'est assez marrant, quand même. Enfin bon, ok. Hein. Donc tout ça, c'est dans Law and Order version Great Britain. Mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors sur une chaîne du câble un peu perverse comme ça, quoi. Pourquoi pas, on sait pas, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. C'est comme ça, quoi. Parlons à présent. Alors, générique.
Attends, s'il te plaît, je le fais. And now, live from the FML Studios in Toulouse, France, MC Dulcepore in the Late Show! Et là, applaudissements du public.
Ouais!
Les talk shows, alors je fais ce papier un peu contraint et forcé.
Le flingue
parce
sur la
que,
tempe, allez.
Il faut dire que les talk shows, ça n'intéresse absolument pas les Européens, les Français, qui ne savent même pas de quoi il s'agit.
Ils tentent d'en lancer en ce moment sur France 4.
Vraiment, alors justement...
Si, salut les terriens.
Alors justement, hier soir, je me suis dit, je vais me taper... Ce qui est une copie conforme des talk shows aux États-Unis, ouais. Il s'agit du Bellatar Show sur France 4. C'est tous les vendredis soirs vers 22h30, c'est ça. Hier soir, Yacine Bellatar avait invité les deux auteurs des Guignols, hein, puisque il faut savoir que le 16 mars...
Ils sont passés de
4
à 2, voilà, et le 16...
Non, 3, ils sont 3. Hein. Il n'était que 2 invités, mais il y en a un troisième.
Non, ils sont plus que 2. Sur Saint-Herme.
Ah bon.
Depuis le 1er janvier.
Mais non, parce qu'il me parlait de Troyes, quoi, justement, quoi, hier soir, quoi. Alors, ils ont été invités parce que le 16 mars prochain, quoi, eh bien, ce sera les 20 ans des Guignols. Bellatar a essayé de leur faire dire qui c'est, gens en chair et en os qui allaient venir interpréter leur marionnette à la place de la marionnette et tout. Alors, bien sûr. PPD qui serait là, nanana et tout.
Bon. Alors qu'il a toujours été contre.
Ouais, il est moins con que ça, quoi, je pense.
Oui,
quoi,
oui.
Hein,
je pense qu'il le fait pour
le
fun.
Parce que là, maintenant, ils ont dit, c'est top secret, on peut rien dire, on dira rien, tagada, même s'il y a eu certaines fuites, hein, de toute façon. c'est un parent pauvre, on va dire. Yacine Bayat a refait ce qu'il peut, hein, on va dire. Mais bon, souvent, ses vannes tombent un petit peu en creux et tout. Mais bon, il a bien du mérite. Il a vraiment du mérite. Hein, ça, il faut lui laisser. Il n'y a pas de problème. Jetez-y un œil.
C'est pas un genre qui est évident, puisque les late shows à l'américaine, ça commence par un quart d'heure de stand-up, un quart d'heure de blague, et ensuite l'interview de trois invités qui défilent les uns après les autres sur le fauteuil, et ensuite ils sont sur le canapé.
Non, non, là c'est directement sur le canapé, quoi, tu vois.
D'accord.
Quoi. Voilà, c'est directement sur le canapé. Sinon, le rythme est un petit peu différent. Le one man du départ et tout, quoi, est raccourci à 2-3 minutes et tout, hein, histoire de faire des vannes un petit peu comme ce que fait Ruquier, hein, dans On n'est pas couché, hein, c'est un petit peu pareil, un peu moins long, quoi, on va dire. C'est bien orienté, on va dire, hein, on va dire politiquement, quoi, y a pas de problème, on sait de quel côté ça marche, quoi. Et il y avait également Augustin Legrand hier, donc c'était assez intéressant de savoir quels sont les nouveaux développements au niveau des de l'association Don Quichotte et tout ça. Le grand qui a été bien rentre dedans, quoi. On est là, bon, avec Bellatar, il a réussi à bien causer et tout, quoi. Donc bien rentre dedans, quoi, à propos de Boutin et des politiques en général, hein, sur la situation sociale des sans-domicile fixe. Bon, voilà, ça c'était le petit aparté concernant Yacine Bellatar Show, qui est vraiment, je dis, un copie conforme, hein, c'est-à-dire c'est pareil, il y a le décor derrière en espèce de carton-pâte qui représente une ville, il n'y a pas l'orchestre, quoi, mais enfin il y a le public, l'espèce de grand bureau du présentateur et le canapé qui est en dessous. Alors c'est pareil, hein, si vous regardez Conan O'Brien, David Letterman, Jay Leno, enfin bon, les talk shows historiques, c'est pareil, hein, l'intervieweur et le personnage principal du show, puisque c'est le show à son nom, quoi, est toujours au-dessus des personnages qui sont interviewés. Même quand il s'agit, dans le cas de Jay Leno, de David Letterman et maintenant de Conan O'Brien, qui est quand même le petit jeune de la bande, il s'agit d'acteurs de Hollywood qui font partie de la A-list, hein, c'est-à-dire des Tom Hanks, des Steven Spielberg, des des Clint Eastwood, c'est-à-dire les gros, quoi, hein, les grosses têtes d'affiche.
Ou sinon des politiciens et des musiciens, en général c'est les mecs, vraiment le showbiz en avant-plan, quoi.
Ah oui, non, mais bon, c'est là, de toute façon c'est la guerre entre eux, hein, pour savoir qui c'est qui va choper les mecs en premier ou les nanas en premier quand ils ont la promo d'un truc à faire et tout. Alors, il faut savoir aussi que aux États-Unis les shows sont scénarisées mais pratiquement à la seconde, et que même les personnes interviewées, les personnes invitées, eh bien, ont leur texte qui est plus ou moins préparé par les scénaristes de l'émission, qui sont toute une bande, hein,
voire des fois ils participent carrément aux gags, comme dans l'année de 2000 de Conan O'Brien, où ils faisaient venir Joe Black et tous les autres
qui participaient. Tout à fait. Alors il y a une série qui avait été excellente à l'époque, hein, qui n'avait tenu que 2 ou 3 saisons, hein, qui s'appelle le Larry Sanders Show, qui était justement une série qui essayait de caricaturer, mais très 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 finement, hein, le monde des late shows, hein, de Letterman, Leno et toute la bande, hein, avec l'excellent Gary Shandling dans le rôle de Larry Sanders. Et cette série poussait le vice jusqu'à montrer les coulisses, bien entendu, les à côté, les avant, les après émissions, mais dans la série, sur le plateau, on avait vraiment des vrais invités qui étaient là, qui participaient à la série. Il y a eu une séquence mémorable avec David Duchovny, Michael Bolton, enfin j'en passe des meilleurs. Il y avait également les hip-hoppers de New York, là, Wu-Tang Clan, enfin bon, j'en passe les meilleurs. C'est-à-dire que dans la série, ils ont réussi à faire aussi bien au niveau des invités que les vraies émissions. Et bon, ça débottait à fond les manettes. Et avec dans l'équipe de scénaristes un certain Jérémy Piven. Ah ouais. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand truc qui est arrivé, hein, c'est sur une des chaînes principales. On va resituer un petit peu les choses dans le contexte. Au départ, les late shows ont été créés il y a une trentaine, quarantaine d'années, avec un monsieur qui a été l'incontournable pendant 30 ans, c'est Johnny Carson, avec le Tonight Show. Le Tonight Show. Mais Johnny Carson commençait à se faire un petit peu vieux au début des années 90. Et donc, il fallait plus ou moins passer la main. Or, il faut savoir qu'il y avait le Tonight Show programmé à partir de 23h30. Parce que sur tous les grands networks américains, ABC, NBC et CBS, de 21h à 23h, c'est la case qui est dévolue aux séries prime time. Dans 21h, 22h, on va passer des séries qui sont regardables même pour les enfants. 22h, 23h, on va passer des séries qui sont un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus trash, un petit peu plus dérangées, on va dire, adultes. Hein. Et après, eh bien, c'est place au talk show. Talk show, donc le Tonight Show.
Après le rappel des infos qui a.
Voilà, il y a une petite séquence d'infos et tout, d'un quart d'heure, 20 minutes et tout, parce que c'est coupé par la pub et tout. Donc,
c'est les infos locales d'ailleurs, attention. Ouais, ouais.
Et donc, vers 23h30, Tonight Show. Et après le Tonight Show, hein, eh bien, on a encore un Late Show, c'est-à-dire un deuxième talk show. Et après ce Tonight Show, eh bien, de Johnny Carson, eh bien, c'était David Letterman, hein, qui avait son The Late Show with David Letterman. Tout ça, ça se passait sur NBC. Mais au début des années 90, Johnny Carson, très très vieux, décide de passer la main. Et bon, David Letterman se dit, cool, c'est moi, je suis adoubé, je fais partie de la maison, ça fait... j'ai quand même inventé un style un peu plus moderne de talk show, un peu plus on rentre dedans, où on tape un petit peu sur la gueule des politiques et tout ça, alors que Johnny Carson était quand même très
c'était
très conservateur,
pépère, hein.
Pépère et tout.
C'est Drucker.
On passe de la brosse
oui,
à reluire. Drucker, hein, tout à fait.
De toute façon, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, puisque c'est évident que tous ces shows-là qu'on a connus en France étaient plus ou moins inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis, qui est plutôt dessiné aux personnes plutôt âgées ou plutôt conservatrices ou plutôt des grandes ceintures agricoles et tout ça, donc c'est limite républicain, je veux dire.
Voilà.
Letterman, lui, il était rentre dedans derrière, il a dit moi je fais un show plutôt pour les jeunes adultes urbains et
voilà, pour ceux qui sont sortis un petit peu bouffer le soir, aller voir une toile et tout, qui rentrent, qui allument leur télé et tout, quoi, bon bah qui continuent un petit peu booster. Donc Letterman se disait ok quoi, c'est moi qui prends la suite, y a pas de problème et tout quoi. Sauf que arrive Jay Leno qui se voit propulsé eh bien à la tête du Tonight Show à la place de Johnny Carson. Et là, Letterman l'a très mal pris et donc s'est barré de NBC et allé chez le concurrent CBS pour concurrencer eh bien le Tonight Show, hein, et donc créer son Dave Letterman Show.
Faut savoir
à la même heure.
Faut savoir qu'à l'époque, le Tonight Show faisait 50% d'audience.
Ah oui,
c'était un truc énorme.
C'est énorme.
Qui est toujours énorme d'ailleurs.
C'est toujours énorme de toute façon. Et donc depuis 92-93, Letterman chez CBS, ce qu'il souligne toujours, hein, il faut dire qu'il a toujours la dent dure, hein, contre NBC. Hein, si vous regardez de temps en temps le Dave Letterman Show et tout, hein, il joue avec la petite pastille CBS et tout. Et il dit oui CBS machin et tout par rapport à non, on ne citera pas et tout. Hein, bon, il a rancune tenace, hein, le papy Letterman. Letterman qui apparaît d'ailleurs dans le Larry Sanders Show, c'est assez marrant, quoi. c'est vraiment très très rigolo, hein, qui joue son propre rôle, bien sûr. Hein. Mais qui sait faire la part des choses et tout par rapport à Gary Chandy, c'est très rigolo. Donc David Letterman se dit je vais rafler tout le truc et tout. Et depuis que Jay Leno et David Letterman sont les deux grands, on va dire
concurrence frontale à la même heure,
hein, full frontal, hein, de toute façon c'est à la même heure, ça dure le même nombre de minutes. On se disait statu quo, pas de problème, et tranquille. Mais surgit d'autres larrons. Pourquoi? Eh bien parce que David Letterman, rappelez-vous, David Letterman était après le Tonight Show. Et donc, cette case-là, eh bien, il faut bien des jeunes loups dans l'ongle qui arrivent. Et qui arrive un certain Conan O'Brien, qui commence à vraiment se faire bien connaître, surtout par son insolence.
Il était un petit peu inconnu, puisqu'il avait fait deux saisons des Simpsons en tant que script. En tant que scénariste, il avait tenté deux séries qui n'avaient pas marché. Et quelques apparitions, je crois, sur la télé du câble, hein, il avait été au bout d'un moment sur MTV d'ailleurs.
Oui, oui, mais Conan O'Brien se dit j'ai pas le choix, de toute façon, hein, si je veux essayer d'arriver à pratiquement à la même chose que ces deux dinosaures que sont Leno et Letterman, j'ai intérêt à booster à fond les manettes, à être encore plus rentre dedans, ce qu'il arrive aisément à être et tout, avec un certain tact aussi, il faut le reconnaître, hein, c'est quand même qualitativement très très bien quoi. Conan O'Brien hein, par rapport à Letterman qui s'en croûte un petit peu, par rapport à Jay Leno.
Jay Leno, bon, c'est familial.
Qui hein. est familial. Hein,
voilà, Conan O'Brien, c'est des gros délires des fois, rien qu'avec la caméra et tout ça, ou avec le public. C'est,
il arrive bien à jouer justement. Ouais. Quoi, disons, il a une gestuelle qui est plus intéressante. Bon, c'est sûr, il est plus jeune, il hein, n'y a pas de problème. Quoi. Il a une gestuelle plus intéressante. Il a un visage qui se prête également à des mimiques et à des grimaces qui sont un peu plus imposante que celle de Letterman, qui est pas mauvaise non plus de ce côté-là.
C'est vrai.
Hein, c'est vrai quoi, y a pas de problème. Et donc bah on était à ce statu quo, sauf que bien dernièrement, ben qu'est-ce qui se passe, ben grosse révolution. Pourquoi? Eh bien parce que eh bien Jay Leno rend un petit peu les clés du Tonight Show pour parce que bon. Je dis bon, ça va, j'ai plus ou moins fait le tour et tout.
C'est pas exactement ça qui s'est passé. C'est quand ils ont re-signé le contrat de Conan O'Brien. Conan O'Brien, je veux reprendre le Tonight Show, ils lui ont accordé.
Voilà, c'est ça quoi. Donc,
c'est ça le truc.
Voilà, donc Jay Leno, de toute façon, quoi, il devait laisser le créneau à Conan O'Brien. Donc toute la suite logique, hein, de toute façon, sachant que ça devait se passer comme ça. Mais que faire de Jay Leno au niveau de la chaîne quoi. La chaîne se dit bon, bah Jay Leno, qu'est-ce qu'on va en foutre et tout quoi. Si on le laisse se barrer, il va se barrer sur l'autre chaîne concurrente et donc on aura trois talk shows en full frontal, Jay Leno, Conan O'Brien, David Letterman sur chacune des
chaînes. Ça va, vous arrivez à suivre ? Je rappelle que sur CBS à ce moment-là, il y a juste un truc d'actualité, il y a Nightline.
Ouais ouais, et donc bon bah ils se disent non, bah ça peut pas le faire et tout. Et ben ce qu'on va faire, on va proposer à Jay Leno de se mettre dans le créneau d'avant. Avant les news, c'est-à-dire à 22h. Et c'est ça la grosse révolution, parce que bon, ça veut dire que, eh bien, il y a une case horaire qui saute. Il faut savoir que ce sont des shows quotidiens, hein. C'est tous les soirs, hein. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les soirs, quoi. Donc,
avant, c'était du lundi au jeudi, mais depuis deux ans, c'est jusqu'au vendredi.
Ouais, ouais, jusqu'au vendredi. Hein.
Et le best-of passe le samedi maintenant.
Et donc, ils se disent, de 22h à 23h, eh ben, c'est le créneau horaire qui était dévolu aux séries adultes matures. Qui va sauter, donc non, c'est pas bon quoi. Donc ruer dans les brancards et tout, ça veut dire que bon les chaînes vont accorder moins de crédit à des séries en devenir, des séries plus ou moins ambitieuses, et que donc du côté des gros networks, la manne va se tarir hein, pour produire de nouvelles séries. Alors, on sait que ces chaînes sont grandement concurrencées par les chaînes du câble qui, avec plus de liberté éditoriale, ont produit les gros blocs Blockbuster au niveau série de ces dernières années, les Sopranos, des séries un peu plus confidentielles, mais qui ont un succès d'estime comme Oz.
Ou même qui des fois se retrouvent sur les grands réseaux, puisque ça a été le cas pour des
séries Housewives. Qui sont rachetées par la suite par les grands réseaux.
Qui passe sur HBO, qui est l'équivalent de Canal Plus, et qui a été racheté par ABC.
De toute façon. Et donc, là, c'est le gros dilemme et tout. Et ça remue vraiment dans les brancards en ce moment au niveau de ces histoires de Tonight Show quoi. Donc pour l'instant c'est le statu quo, on sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas ça va faire chier pas mal de gens hein, savoir les auteurs, les scénaristes qui eux se disent pour l'instant on a plus ou moins le vent en poupe, on a même réussi à bloquer la télé quoi pendant notre grève et tout pour obtenir pratiquement que chill. D'ailleurs là ils sont vraiment très cons hein. Là je trouve qu'ils sont très cons vu ce qu'ils ont obtenu ils ont quand même foutu le bordel quoi. Ils ont quand même réussi à faire annuler des séries parce que on ne pouvait pas tourner les séries en entier.
Puis de toute façon il y a la fin de Urgence. Enfin NBC est très mal de toute façon sur l'ensemble de ces séries. Ils arrivent pas à décoller. Urgence est en train de s'arrêter. La seule série qui cartonne chez eux, c'est New York Unité Spéciale, c'est toute la franchise qui est dans ce cadre horaire. Mais après, le reste, il y a quoi ? Il y a Chuck qui marche pas aussi bien que prévu, il y a pas grand chose. Hein.
Qui marche pas aussi bien, c'est-à-dire qui ne rapporte pas assez d'audimat par rapport à ce qu'ils espèrent pour pouvoir revendre des publicités. Hein, c'est tout, c'est le même constat de toute façon. Par rapport à une chaîne privée comme TF1, hein, de toute façon, hein, si ça fait pas assez de chiffres, tu dégages, hein, y a pas de problème, parce que nous, on doit vendre, hein, nous, on a les publicitaires et tout, selon le nombre d'audimat, hein, la minute ou les 30 secondes de publicité valent plus ou moins cher, hein, y a un quota comme ça, quoi, y a des quotas qui sont fixés, donc, là, ils l'ont vraiment très très mal, en ce moment, quoi, donc, du côté des gros networks au sujet de ces late shows.
On en saura un petit peu plus, hein, on va suivre un petit peu quoi, ce qui se passe.
Oui, ben, de toute façon, le nouveau créneau horaire, là, il y a Conan O'Brien qui a fait la dernière le 20 février, où il a détruit le décor. Il a distribué le décor au public, hein, qui sont partis avec les grandes plaques là, tu sais, ouais, qu'il y a devant les musiciens, la scène anthologique où il s'excite à la hache. Et normalement, c'est début juin, qu'il y a le nouveau show de Jay Leno. Et on verra est-ce que les autres chaînes vont suivre ou en profiter justement pour gagner plus d'audience. Parce que Jay Leno, voilà, c'est pépère. Donc. On attend de voir.
Alors celui qui a cassé à la hache, c'était qui ça?
C'est Conan O'Brien.
C'est Conan O'Brien avec la houppette, là qui fait toujours le con.
Le rouquin, c'est le rouquin.
Tu peux pas te tromper, voilà.
Tu peux pas te tromper, c'est le rouquin, quoi, de toute façon, quoi.
On voit souvent dans les clips des White Stripes, d'ailleurs. Il est régulièrement invité parce qu'il adore ce groupe et eux aussi. Donc,
Ah bon, ah ouais. Bon.
On le voit au moins dans deux. 13h33, grand Dieu.
Ouais, ça va, ouais. Ouh.
Dis-moi qu'il n'y a pas grand-chose, c'est ça?
Non, pas trop.
Ah bon. Ok. C'était donc le supplément week-end et...
Non. Un peu de télé, il y a quand même quelques séries inédites à voir cette semaine. Dont la nouvelle production M6. Non, je rigole. la nouvelle programmation M6 ce soir à 20h40. Hein, M6, c'est série le samedi soir, bien entendu. Avec quelque chose qui pourrait être assez intéressant, moi qui me, moi ça me dit bien, hein, de toute façon quoi. Ça s'appelle Women's Murder Club. Alors c'est adapté de plusieurs romans de James Patterson, avec Angie Harmon dans le rôle principal. Angie Harmon, si, c'est une brune aux cheveux longs raides et qui est substitut du procureur, hein, aux côtés de Sam Waterston dans la saison 7, 8 et 9 de Law and Order. Ah oui, mais elles ont changé parce qu'il y a eu des blondes aussi, enfin bon, mais elle, bon, il y a eu une autre brune qui lui ressemble vachement, quoi. Mais bon, elle est connue, elle a un visage assez connu, hein, de toute façon, quoi. Alors, c'est tiré d'un bouquin, de plusieurs bouquins de James Patterson. Alors, il faut que je retrouve mon truc et tout, quoi, sur James Patterson, qui est un écrivain de polar assez connu, quand même, hein, parce qu'il a également été scénariste sur quelques films, né à 47 à New York. Alors, il y a, dans sa production, deux grosses sagas. D'abord la saga Alex Cross, puis la saga Women's Murder Club. Dans la saga Alex Cross, deux de ses livres ont été adaptés à l'écran. Tout d'abord Le Masque de l'araignée, qui a été adapté sous le nom du collectionneur de Gary Fleder en 97, avec Morgan Freeman dans le rôle principal. Et également Kiss the Girl, traduit Et tombe les filles en français, le titre original du Et tombe les filles, Kiss the Girl, c'est le collectionneur de Gary Fleder. Donc, alors que Le Masque de l'araignée, c'est également avec Morgan Freeman, les deux, hein, de toute façon, quoi. Mais c'est le film de Lita Maori avec Michael Wincott dans le rôle du méchant. Il a également écrit d'autres bouquins. Au total, il y en a 11, hein, sur le thème d'Alex Cross, quoi. Le dernier est sorti en 2008, l'année dernière. C'est des nouvelles de Marie. Et donc, il y a la saga Women's Murder Club qui est un peu plus récente. Et d'ailleurs, bon, je savais pas du tout, mais enfin, j'avais acheté le premier bouquin, quoi, qui s'appelle Premier à mourir, qui est sorti en 2002, qui est sympathique, hein, une histoire de serial killer qui dégomme des jeunes mariés, quoi, dans la chambre de nuit de noces, quoi. Bon, c'est sympathique,
ouais, c'est
original. Original, quoi. Donc, pour l'instant, il en est à 7 romans sur le Women's Murder Club. Un téléfilm a déjà été sorti d'après la première histoire, c'est-à-dire Premier à mourir, un téléfilm réalisé quand même par Russell Mulcahy, avec Tracy Pollan, Megan Gallagher, Pam Grier, Mitch Pileggi, et bien sûr Robert Patrick dans le rôle du tueur, ça c'était évident, hein. Et il a encore écrit 14 autres romans, hein, qui sont des romans, des one-shot novels. Voilà, ça c'est James Patterson, donc, qui est à l'initiative de ce Women's Murder Club. Alors, les films que j'ai dit, il est également scénariste des films, hein,
scénariste ou co-scénariste de ces films-là, quoi. Dans cette série Women's Murder Club, dont on pourra voir 13 épisodes de la première saison, adapté. Mais James Patterson est également producteur exécutif de cette série et il aide également au scénario des différents épisodes. Donc c'est Angie Harmon qui est le rôle principal, qui donc interprète le rôle de Lindsay Boxer, qui est lieutenant de police à San Francisco. Et qui bon commence à être un petit, qui a un petit don, on va dire, hein, pour résoudre des enquêtes et tout. On dirait, si on était un petit peu machiste, on dirait l'intuition féminine. Mais il n'y a pas que ça, et donc elle est un petit peu dégoûtée justement, quoi, des attitudes macho des autres, de ses autres collègues et tout, parce que bon, bah l'univers de la police est un univers franchement quand même assez masculin au départ, et donc elle décide de créer ce Women's Murder Club, l'espèce de dream team de femmes qui sont expertes dans chacune dans leur domaine particulier et puis qui vont aider à résoudre des enquêtes policières. Et donc aux côtés d'elle, eh bien d'autres nanas, Laura Harris, hein, qu'on a vu dans Dead Like Me, il y a également Audrey Dollar qu'on a pu apercevoir dans Dawson, ou Paula Newsome qu'on a vu dans ER, c'est-à-dire Urgence, ou dans Heroes également. Et le retour de Rob Estes. Ah, content, les dessous de Palm Beach. Melrose Beach Place. Ah, tout ça. Donc c'est ce soir à partir de 20h40 sur M6 Women's Murder Club. Sinon,
j'ai pas eu le temps de m'attendre. Ah, un petit peu
alors, là, c'est disponible, c'est à voir, c'est également une série inédite, mais à voir sur une chaîne qu'il te faut l'abonnement spécial chez Orange et tout, c'est sur les chaînes nouvelles.
Bon, ça va pas
Orange.
Ça va pas tarder à sauter, ça. Hein.
Alors, Orange Cinemax, donc, qui nous propose une série canadienne et qui est une série dérivée, on va dire, de la série originale anglaise « Femmes de footballeur ». Et là, comme ça se passe au Canada, le football n'est pas le sport numéro 1 au Canada, c'est le
hockey
sur glace. Et donc, eh ben, on va suivre les aventures et les mésaventures des femmes d'une équipe de hockeyeurs, hein, qui s'appelle les Mustangs. C'est à partir de mardi soir, 20h40, sur Orange Cinemax. Ça s'appelle donc Hockey Wives. Plus intéressant certainement, ce sera sur Arte à partir de vendredi prochain, 20h40. Et c'est la première saison d'une série allemande qui s'appelle Berlin Brigade Criminelle. Bon, le titre est c'est n'importe
bateau.
Quoi, hein, bateau à fond les manettes. Par contre, l'interprète principal de cette série, Götz Schubert, est très très connu outre-Rhin parce que c'est un grand acteur de théâtre au départ, mais là, ben, ça fait plusieurs saisons qu'il a ce rôle récurrent, donc, de cet inspecteur principal dans Berlin Brigade Criminelle, avec à ses côtés Manfred Zapatka. Deux épisodes vous sont proposés vendredi prochain. Hein, bah, ça nous. Alors en plus, lui, il est flic à Berlin, mais dans le quartier vraiment trash de Berlin, quoi. Où il y a une faune pas possible. Tu te demandes si t'es en Allemagne, quoi. Des moments, quoi. Tellement c'est la zone. C'est à Kreuzberg exactement, quoi. Hein, c'est pas loin de la gare et tout, quoi. C'est.
Oh, t'inquiète, hein.
Quartier un peu chaud, quoi, on va dire.
Montre aux Américains le Mirail ou.
Non, Bagatelle, là, c'est,
Ah bon?
Là, attention, là, hein, c'est. Ça dépote un peu, quoi, quand même, quoi. Bon, moi, quand j'y étais, quoi, c'était pas comme ça, mais bon, ça a changé, quoi, tu vois, en presque 30 ans, ça a vachement changé, quoi. Alors, les deux premiers épisodes, le premier Auf Schmalengrad, ça veut dire du plus petit degré en français, ou Unversöhnlich, qui veut dire irréconciliable en français. Les deux premiers épisodes, donc, de Berlin Brigade Criminelle. Sur Arte, c'est vendredi prochain à 20h40. Et là, une petite série de films pour la semaine.
Ah, ouais.
Et on va faire une grande première.
C'est tous les films sans Steven Seagal.
Non, il n'y a pas. Mais je tends la feuille à Thomas. C'est Thomas qui va s'occuper.
Ah oui, d'accord.
D'accord.
C'est la semaine des films asiatiques.
Oh là! Attends. Pour le coup.
Bon, j'ai écrit pour moi, alors j'espère que tu arriveras à me
oui,
relire.
Oui,
hein.
Je pense. Oui, c'est bon.
Ça faisait longtemps.
John Woo, Gordon Chan, Soyou.
Alors, la semaine des films asiatiques, on commence avec demain sur Cinéma Frisson à 20h40, c'est le grand tournoi. Alors, pourquoi c'est dans les films asiatiques?
Parce que ça se passe en Thaïlande.
Deux et avec Jean-Claude Van Damme, avec Roger Moore et James Remar et The Quest en VO d'ailleurs. Oui, oui.
Si, si.
En méchant, oui. Enfin, méchant, en espèce de pseudo méchant. Lundi, sur Orange Ciné Choc à 20h40, Volcano High de Kim Tae-gyun. Et c'est avec Jeong-yuk, Kim Suro et Jin Min-ha. Et c'est un film de 2001, Volcano High. Je crois que ça se passe dans un collège ou un lycée avec des gosses qui se bastonnent avec des arts martiaux, non?
Ouais.
Avec du lard martial.
Oui.
Non, il y en a un qui. Il y en a un qui a un petit peu des super pouvoirs, des pouvoirs paranormaux, voilà.
D'accord.
Des pouvoirs paranormaux, voilà.
Orange Ciné Géant, décidément, c'est sur Orange toujours, les films asiatiques. 20h40, La Femme des Sables de Hiroshi Teshigahara, et ça, c'est un film de 63. Avec Eiji Okada et Kyoko Kishida.
Ouais, ça c'est l'histoire d'un type qui est ornithologue et puis qui se rend sur une petite île. Bon, au Japon il y en a beaucoup, hein. à la recherche d'insectes, quoi, bien sûr, puisqu'il est ornithologue et tout. Mais il va se retrouver emprisonné par une bonne femme dans une maison qui est menacée d'ensablement.
D'accord.
Voilà le pitch.
Mardi, Orange Ciné Choc à 20h40, Memories of Murder.
Tu as pas cité le nom de l'actrice principale qui est quand même vachement connue.
Alors, si, Eiji Okada.
Eiji Okada, voilà, ouais. Ouais.
Memories of Murder, mardi, donc le film de Bong Joon-ho de 2003 qui a fait ensuite The Host. Et ça, c'était un film où deux flics que tout oppose sont contraints de bosser ensemble pour arrêter un mystérieux
serial killer.
Ouais. Et donc, c'est un film entre comédie et film vraiment glauque. Et tu sais pas sur quel pied danser, c'est un peu la marque de fabrique de Bong Joon-ho qui avait fait sensation avec ce film. Le lendemain, mercredi 13ème rue, 22h30, c'est Breaking News de Johnny To.
Oh, ah oui!
2004, avec Nick Chung notamment, et à savoir que depuis deux jours est disponible le trailer du nouveau film de Johnny To avec Johnny Hallyday qui s'appelle Vengeance ou Johnny Hallyday.
Ça n'est pas une blague, attention.
Non,
hein.
non.
On raconte parfois des cracks, mais c'est scénarisé, mais là non, c'est pas une blague.
Oui, nous sommes pas le poisson de 1er avril, voilà. Cinéma Club, 20h40, Kids Return. C'est une soirée spéciale Kitano.
Ouais,
avec Kids Return, film de 96 avec Kitano qui ne joue pas dedans d'ailleurs puisque c'était suite à son accident.
Ouais, ouais.
Avec les deux jeunes, c'est film absolument génial avec une musique dantesque toujours de Joe Higashi. Et suivi à 22h30 de L'été de Kikujiro qui vous tirera les larmes que vous avez. Où Kitano joue un ancien Yakuza qui prend sous son aile un petit gamin pour l'emmener, l'occuper pendant l'été. Avec plein de moments de tendresse à la Kitano.
C'est beau.
Tout à fait. Orange Ciné Choc, 20h40. C'est 3 extrêmes, film à sketch réalisé par Fruit-chan, Park Chan-wook et Takeshi Miike.
Alors là, je suis tombé dessus par hasard une fois, et puis au bout de 2 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue de maboule, quoi. C'est complètement à la masse, hein. C'est des histoires où les tabous sont transgressés, mais avec allégresse. On sait que bon, on n'a pas les mêmes tabous en Europe et là-bas. Mais même là-bas, à mon avis, c'est vraiment du très dur, du très trash, quoi.
Voilà, donc Park Chan-wook, c'est celui qui a fait Old Boy, donc c'est le coréen. Takashi Miike, le japonais qu'on ne présente plus.
On le présente plus, non.
Et Fruit-chan, c'est le hongkongais, et son segment a eu tellement de succès que son opus, donc Nouvelle Cuisine, c'est le nom du moyen-métrage, est sorti en long-métrage, ensuite en version longue, à part. Jeudi, 13ème rue, 23h, ben donc on en parlait, c'est All Boy de Park Chan-wook, le film de 2003 qui est une tuerie jusqu'au boutiste qui est indescriptible. C'est le film, il faut le voir.
Ben, le film qui avait justement créé une super polémique quand il était programmé à Cannes, vu que tout le monde le voyait gagnant. Mais non. Hein, il a eu le prix spécial du jury, je pense.
Oui, c'est Tarantino qui a une scène où c'est un plan séquence où c'est quasiment du beat'em all, où il dégomme une armée de gens à lui tout seul. Et dans la salle, il y a Tarantino qui s'est levé, qui a applaudi. Et c'était le coup de cœur de Tarantino, justement. Et c'est l'année où c'est Fahrenheit 9/11 qui avait eu la Palme d'Or.
Voilà, ouais.
Vendredi lendemain, Canal Plus Cinéma à 20h45, Lust, Caution, le film d'Ang Lee de 2007 dont on avait parlé ici avec Tony Leung Chiu Wai, film de cul, enfin pas que ça, mais qui se passe pendant l'occupation japonaise de la Chine. Voilà, donc il y a pas mal de scènes assez chaudes hein, avec Tony Leung, on voit même des poils et tout.
Ouh, étonnant.
13ème rue, le même jour, à 23h15, c'est Pity You, le film de Jonito de 2003 avec Simon Yam, et L'âme suette aussi, qui joue le rôle du flic qui perd son flingue. C'est un film polar urbain nocturne, avec un Hong Kong vidé de ses habitants, assez surprenant et déconcertant, on va dire. C'est un film qui te propose un entre-deux encore. C'est pas vraiment tourné action, c'est pas vraiment tourné comédie.
C'est justement, c'est quelque chose de très différent dans la production habituelle de Hong Kong. Hein.
Oui, bah, Jonito nous a habitués à des films comme ça aussi. Et on finit par Orange Cinéma Novo qui propose à 21h, donc vendredi, Une femme coréenne de Im Sang-soo de 2003. D'accord. Donc on vous laisse découvrir ce film. Donc c'était la semaine des films asiatiques préparée par Dusport.
Voilà, ouais, je voulais vous faire les péplums, mais enfin il y en avait que un.
Il est 13h48 surtout.
Mais pas le moindre, hein, le Colosse de Rhodes de Sergio Leone quand même.
Car oui, Sergio Leone n'a pas fait que des westerns.
Ah bah non.
Thomas, s'il te plaît, peux-tu reprendre l'émission pour ceux qui... Peux-tu faire le résumé, s'il te plaît, pour ceux qui sont tombés sur l'émission par hasard, en cours de route, en zappant sur un
Les salauds, ils savaient pas qu'on était là.
Oh, non.
C'est une émission placée sous le signe des héros masqués, avec... on a commencé par un Xavier endormi, ses défauts de prononciation, on a eu du Batman, on a eu la livraison habituelle des Panini, or pas les vignettes, les BD. Xavier a découvert les effets de voix, les justiciers has-been au cinéma sont revenus, du western sans image, du spectacle de Parlotte, des flics à Berlin et de films asiatiques.
Excuse-moi.
Non, d'un justicier hibou psychotique.
Non, d'une cape, ils ont manqué tout ça, heureusement. Vous pouvez, grâce à la diffusion différée, réécouter l'intégralité de cette émission et écouter et réécouter les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz. Stupide, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. www.supplementweekend.fr sans accent ni tiré. Vous écoutez FM1 sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur radio-fmr.net. Restez à l'antenne parce que du sport en plus tout à l'heure va faire gagner des places pour le concert Joseph Arthur ce samedi. Et dans le prochain épisode, JB se trémoussera en pantalon moule burn avec slip apparent. Non mais j'ai juste écrit ça parce que d'habitude il relit bêtement le speech de fin quand il est là, que je lui ai écrit et que je pensais qu'il allait tomber dans mon piège. Mais comme il n'est pas là, te fais encore louper.
Oui mais
sinon c'est un garçon qui est très gentil, si.
Mais il va pas réécouter l'émission, donc tu pourras le réécrire pour le speech de la semaine prochaine.
On fait le pari ?
Oui.
D'accord, copier-coller, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, pour voir si effectivement il tombera dans le piège. Stupide et ignoble et affreux qu'on lui prépare. C'est au bye bye, ciao.